Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Bonsoir à toutes et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. Bienvenue, c'est parti. Vous le savez, le grand déballage, c'est tous les vendredis de 18h à 20h. Et nous, on est là, en live, en direct, oui, hein, malgré les intempéries, malgré la neige. On se laisse pas faire, nous, vous savez. Elle nous paralyse pas, cette neige. Vous croyez quoi? On va en parler tout à l'heure. Et rigole pas, Jean-Claude Chikaya. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu rigoles comme ça, là, tu te fous de ma gueule, c'est ça?
Non, pas du tout.
Pas du tout. C'est ça, légèrement. Rien narquois, hein, diront certains. Et bien, c'est parti, vous le savez, on est jusqu'à 20h. 20h et 4 sujets. Des débatteurs, non pas 4, alors 2 par téléphone et 2 sur le plateau en live. Eux, ils ont réussi à s'en sortir. La classe, messieurs. Je vais présenter Mohamed Benjeloukbour, qui nous vient tout droit. T'atterris là, t'étais à Roissy, non, ou à Orly?
À Orly, j'atterris d'Algérie.
D'Algérie, ouais. T'étais où en Algérie?
J'étais à Nedroma, exactement, dans l'Ouest.
Nedroma, absolument. Quelle belle région, hein.
Voilà, et je vous ai ramené des oranges fraîches.
Pas ah oui, c'est vrai, les oranges, regardez. Ah, regardez, je fais du bruit, c'est pas de la télé. Non, mais ça, c'est véridique. Les oranges qui nous viennent de Nedroma. J'en ai mangé une.
Bon.
Ça, c'est ce qu'on appelle du vrai, du frais et du bio.
C'est du bio.
Très bon.
D'Algérie.
Très, très, très bon. Très, très bon. Il y en a une qui est coupée en deux. C'est ce qui lui est arrivé.
Ça, c'est les bagages, à mon avis. Elle était en soute.
J'adore, elle était en soute. Mais c'est vrai.
L'Algérie, le pays qui a inventé l'orangina aussi, faut le savoir.
Absolument.
Oui, faut le savoir.
Alors, pour celles et ceux qui veulent des oranges, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, monsieur Farkas.
Des oranges bio.
C'est Abou Farik, hein, la mention de l'orangina.
C'est vrai. Absolument.
Peu de gens le savent. Voilà,
la ville de mon épouse pour.
Quelle culture, Jean-Claude Chikaya. Alors, toi, tu es consultant, on cite tous ici, hein, tu es consultant en communication et en culture.
Voilà.
Tu es sur des chantiers en ce moment, non?
Bah, je travaille sur des chantiers à Dubaï, en Arabie Saoudite. On regarde ce qui se passe en Algérie, etc. Voilà.
Ouais.
Il y a pas mal de choses qui se développent là-bas.
Oui.
Et je suis vraiment ravi d'être là, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans un studio, monsieur Farkan.
Mais carrément, ouais.
Et je suis ravi en plus de recommencer avec Jean-Claude Chikaya, que j'ai connu à nos débuts ensemble, voilà, dans d'autres vies.
Dans d'autres vies.
C'est de vie, hein. C'est réciproque, moi.
Que de vie. Ça va, on peut vous laisser, hein, messieurs, hein. C'est les retrouvailles ou quoi, là?
C'est les retrouvailles.
Ouais. Tu peux nous mettre la musique, Zora? Tu sais, la musique des retrouvailles. La 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 la. Jean-Claude Chikaya, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Tout va bien.
Mieux que le temps, ça va très bien.
Mieux que le temps, je vois, hein. Non, mais toi, t'es en forme, hein.
On essaye.
T'as réussi à t'organiser. Toi, tu nous viens tout droit de la neige, là où il neige, partout dans Paris, et t'as réussi à t'organiser.
Voilà, par l'intermédiaire.
Ça, c'est la classe.
Avec l'aide de la RATP, mais par les souterrains.
Par les souterrains. Par les souterrains. T'as un tunnel à toi secret?
Non, en fait, il faut éviter.
Mais qu'il emprunte, c'est un tunnel secret.
Il faut éviter les bus et privilégier les métros, RER et autres.
Bon. Alors, par téléphone, on a normalement Karim Boamran, qui a eu quelques difficultés. On va essayer de l'avoir. Et puis aussi, qui ça? Stéphane Tiki. Tiens, il est avec nous. Bonsoir, mon cher Stéphane.
Bonsoir, mon cher Adil. Merci encore de l'invitation et désolé de ne pas avoir pu me rendre.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Stéphane? Attends, dis-moi, ne me raconte pas d'histoire. Jean-Claude Chikaya, il est là. Il y en a un, il vient nous de l'aide, tout droit d'Algérie, moi, de Benjibour. Et toi, tu nous dis que tu as rencontré des problèmes. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane?
T'es paralysé.
Mais arrête, ne me dis pas que toi, un homme politique des Républicains, tu t'es laissé faire par la neige.
Bah, on est dans l'opposition, hein.
Bon, parce qu'il y a pas mal de Républicains au gouvernement.
Là, c'est pas mal, c'est bien dit. Comment ça va, Stéphane? Tout va bien?
Bah, très très bien. Et encore une fois, très heureux d'être là dans cette émission du grand déballage, avec toujours autant d'énergie et de positif.
Bon, Karim Zora, qu'est-ce qui lui arrive? On n'arrive pas à le joindre. Non, c'est quoi?
Messagerie.
Bon, ben, on va essayer de le rappeler, non? Bon, allez, en attendant, moi, je vais annoncer le sommaire, messieurs. Stéphane, on va pas te retenir pendant 2 heures, hein. Tu sais, on va te retenir pendant quelques minutes, hein, histoire que, évidemment, que tu sois présent avec nous. Vous aussi, si vous nous écoutez, dans toute la France, sur toute la France, 0153483000. Notez bien, 0153483000, vous intervenez à l'heure que vous souhaitez. Vous pouvez vraiment nous appeler quand vous voulez, interpeller aussi, y compris, et clasher nos débatteurs, ce que j'appelle, moi, les influenceurs. 4 sujets. Attention, notez bien. Oui, parce que je vais noter tout à l'heure. The Voice, vous avez tous suivi cette candidate d'origine de père syrien et de maman marocaine et algérienne, les deux. Alors elle a tout gagné. Mais en même temps, elle a créé une polémique, parce qu'elle n'a rien gagné. Je veux dire pourquoi, parce que depuis quelques jours précisément, elle s'est retrouvée dans une tourmente suite à la publication d'anciens messages polémiques sur les réseaux sociaux. Et on en parle ce soir, j'y tiens absolument. Alors ce matin, elle a annoncé sa démission. Aurait-elle, est-ce qu'on l'a invitée et on l'a poussée vers la sortie, ou est-ce que c'est une initiative personnelle de Menel? On en parle et ça fait polémique. Deuxième sujet, l'affaire Tariq Ramadan. La détention provisoire maintenue. Une pièce clé a-t-elle été négligée par la justice? Et enfin, vous savez, Tariq Ramadan qui ne souhaite pas se laisser faire, qui a décidé de faire appel. Troisième sujet, la France paralysée par la neige. Scandale ou fatalité? C'est vrai, plus particulièrement en Île-de-France. Comme en 2010, quand en 2013, les usagers des transports bloqués par la neige pointent du doigt la gestion du trafic par les pouvoirs publics. Et enfin, quatrième sujet, la guerre d'Algérie, vous savez quoi? C'est inédit, exceptionnel. Le Conseil constitutionnel qui a étendu jeudi dernier le droit à une pension et une indemnité à toutes les victimes de la guerre d'Algérie, on en parle tout à l'heure, ça fait plus de 55 ans après le traumatisme de la guerre d'Algérie que le Conseil constitutionnel a décidé que les civils algériens ayant subi des dommages physiques du fait des violences liées au conflit pouvaient désormais prétendre à des indemnités versées par la France. Et je sais que Mohamed Benjebourg, tu nous viens tout droit avec une anecdote. Tout à l'heure, tu nous la racontes?
D'accord.
Merci. C'est parti, c'est le programme qui vous attend. C'est espace ici, dans le grand déballage et nulle part ailleurs sur Beurre FM.
Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Un petit tour de table, messieurs, dites-moi, l'affaire Menel. J'ai envie d'ouvrir, vous savez quoi? Pour une fois, avec un auditeur. Ça vous va?
Bien sûr.
Vous êtes d'accord?
Bien sûr.
Avec plaisir. On va accueillir direction Lyon, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, mon cher Mohamed. Mohamed, tu es là?
Ouais, je suis là.
Tu es là, bienvenue à toi. Tu as envie de parler, j'imagine, de cette affaire malheureuse, cette polémique malheureuse concernant la candidate Menel, c'est vrai?
C'est triste, c'est extrêmement triste. Et j'ai appelé ce matin, j'ai parlé avec qui, mais j'ai appris qu'il y avait l'émission qui était consacrée un petit peu à ça. Et je voulais réagir parce que c'est triste.
Mais je t'en prie, dis-nous tout.
Écoute, moi je ressens ça comme une injustice et c'est terrible. En vérité, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette jeune fille. Évidemment, le voile, tout ça, ce n'est rien d'autre qu'un prétexte. Je disais ce matin à Kim, justement, j'ai comme un sentiment qu'on veut absolument purger toute personne française qui viendrait d'une telle ou telle... Enfin, du moins, l'immigration maghrébine, voilà, pour parler sincèrement. Mmh. On a fait la purge dans l'équipe de France avec Karim Benzema, etc. Il n'y a pas longtemps, on a essayé d'enterrer Yassine Bellatar avec des pseudo-propos. Et puis, dans le monde de la musique, enfin là, dans le monde, du spectacle, on va chercher des poules là où il n'y en a pas, des problèmes là où il n'y en a pas. Et je finirai par que le fait qu'elle a tweeté ça, je veux dire, ce message qu'elle a tweeté, on veut mettre la polémique là-dessus, alors qu'il n'y a absolument rien, c'est pas condamnable. Combien même, regardez.
Mohamed, c'est bien, ça va faire polémique, on va en parler. Parce que quand même, elle a tweeté quelque chose, à tendance complotiste qui pose problème. Non? On peut se poser la question, c'est vrai ou pas? Certains disent que c'est vraiment une bêtise quand elle avait 20 ans. Mais cher ami, quand t'as 20 ans, moi j'ai une nièce de 20 ans, elle est responsable. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit, c'est vrai que j'ai réfléchi à 100 fois avant de publier quoi que ce soit.
C'est vrai. Mais il y a eu pire que ça, qui a été écrit, qui a été dit par des politiques. Robert Ménard, Zemmour, il a écrit qu'il fallait faire une ratonnade de Maghrébin. Regardez ce qu'il a écrit dans le journal italien, là. Et pourtant, il est invité tous les jours. Il a les clés de tous les médias. Tous les matins, il réagit partout. Il fait ce qu'il veut des médias. Robert Ménard, Valls, etc. Toutes ces personnes qui, tous les jours... tous les jours dressent les Français non-musulmans contre des Français musulmans. Mais regardez dans quel climat...
Qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi j'écoute attentivement ce que tu nous dis. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, Mohamed? C'est-à-dire quoi? Qu'il y a une communauté visée, c'est-à-dire celle...
Écoute, moi ce que je voudrais dire, je veux qu'on dise la vérité. Il y a un climat, on veut absolument isoler, clairement, moi je le dis sincèrement, d'accord? Isoler la communauté maghrébine, on veut l'isoler par tous les moyens possibles. D'accord,
pourquoi?
Dans le monde
pourquoi
du spectacle, dans le monde du sport, je ne sais pas pourquoi. J'ai une petite idée, mais vous le savez aussi, de toute façon. Il y a comme un climat haineux, d'accord, islamophobe qui monte de pire en pire. Comment ça se fait qu'on va faire les poubelles de cette jeune fille? Regardez jusqu'où ça va, les vices. Bon, vous allez me parler de la fachosphère, mais il n'y a pas que eux. C'est tout un ensemble de personnes qui sont là, évidemment, tous les jours, veulent diaboliser au maximum, je dis bien au maximum, cette
communauté-là.
Ils y arrivent, et ça marche.
Bon, eh ben, écoute, on en parle, ça fait débat. Merci Mohamed, tu as été le premier à intervenir. 01 53 48 3000, est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed ou pas du tout, ou bien au contraire, si vous partagez son point de vue, eh bien vous êtes les bienvenus. Partout en France, vous nous joignez, vous nous appelez, le standard est ouvert et Zora se fera un plaisir de vous accueillir au 01 53 48 3000. Stéphane Tiki, tu es avec nous, dis-moi, quel est ton sentiment sur cette affaire Menel, The Voice, la réaction, ta première réaction, mon cher Stéphane?
Ma première réaction au départ, c'est vrai qu'on est dans un pays qui s'appelle la France, qui défend la liberté d'expression, et moi je peux comprendre les erreurs de jeunesse. Mais cependant, les mots ont un sens, c'est quand on dit des choses, et ben, on est responsable de ce qu'on dit. Et c'est vrai que moi j'ai été choqué, notamment sur le manque de compassion, quand on voit ce qui s'est passé à Nice, où des gens sont décédés, des enfants, ou à cette scène du Rouvray où un prêtre a été égorgé. Voilà, on peut avoir différents avis sur telle ou telle question sur le terrorisme, mais dans ce genre de questions, voilà, ça fait un bloc, notamment penser aux familles des victimes et aux proches.
Quand elle dit, j'ouvre les guillemets, Menel dit, dans son fameux post Facebook et tweet, elle dit, j'ouvre les guillemets, les vrais terroristes, virgule, c'est notre gouvernement. Bon. Vous répondez quoi?
Moi, je suis choqué.
Vous êtes choqué. Bon, je fais un tour de table, Stéphane Tiki. Vous, ça vous choque?
Pour justement aider à lutter contre le terrorisme.
Oui.
Donc, ça m'a vraiment choqué.
Ça vous a vraiment choqué. Karim Bouamran, vous êtes avec nous? Karim Bouamran.
Notamment quand
vous êtes... Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir Karim. Karim, vous êtes le porte-parole du PS. Vous avez été coincé par la neige. Vous êtes paralysé. Exactement. Par la neige. Dites-moi.
Ah,
première. Non, pas de souci. Première réaction sur l'affaire Menel. Est-ce que vous regrettez ses propos? Quelle position vous avez quand elle dit les vrais terroristes c'est notre gouvernement et le fait qu'elle est, disons-le, hein, quand même, on l'a attaqué de toutes parts, cette jeune artiste. Vous répondez quoi et quelle est votre réaction avant d'ouvrir l'antenne, évidemment, aux autres auditeurs?
Non, mais c'est toujours la même chose, Ali. On appelle à la raison. Les terroristes sont le gouvernement. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel que soit le gouvernement, que ce soit la droite, que ce soit En Marche, Centre Droit, que ce soit auparavant les socialistes, on ne peut pas considérer que, on ne peut pas qualifier les responsables politiques de terroristes. Mmh. Ensuite, qu'elle a été blessée dans sa chair, dans son profil, dans ce qu'elle porte, je peux comprendre. Et aujourd'hui, ça, on voit bien qu'on est dans un débat qui est complètement passionné, complètement porté par des prises de position extrêmes.
Mais est-ce que vous comprenez lorsque l'auditeur de Lyon qui nous appelle, qui s'appelle Mohamed, il dit clairement, eh ben on en veut à la communauté maghrébine, on veut l'achever, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a un climat un peu délétère.
Je pense que personne ne veut achever personne. Effectivement, il y a un problème, on est en pleine transition, c'est la tectonique des plaques, on est en pleine transition politique dans ce pays. On commence à comprendre qu'il y a une frange de la population qui n'est pas forcément issue du peuple caucasien, qui est française, qui est républicaine, qui est musulmane, pratiquante ou non pratiquante. Et effectivement, ça commence à parfois raviver certains comportements fascistes, racistes, communautaristes, mais communautaristes dans le sens communautariste, européaniste et européaniste caucasienne, dans ce sens-là. Et du coup, voilà, mais ça reste minoritaire. Donc, ce qui est regrettable, c'est que en prenant position cette petite jeune de la sorte, elle nous rend pas service. Quand je dis nous, c'est toutes celles et ceux qui œuvrent pour une république, que ce soit gauche ou droite, mais apaisée. Qu'est-ce que c'est que ces propos, les terroristes sont les
bon, ben, on fait un tour de table. Non, attendez. Non, mais moi, je comprends. On a entendu Stéphane Tiki, qui représente les Républicains. On a entendu Karim Bouamran, qui représente lui, qui est le porte-parole du Parti Socialiste. Je vais ouvrir l'antenne. En un mot, s'il vous plaît. Jean-Claude Chikaya.
En un mot, je crois qu'il faut reprendre la chronologie de cette polémique. C'est une artiste candidate avec un talent extraordinaire qui stupéfait, tout le monde était époustouflé donc par sa prestation. Elle était en passe de gagner avec son grand talent The Voice. Tous les jurys se sont retournés avec les yeux grand ouverts, et qu'on soit érudit, connaisseur ou non, tout le monde a vu son talent. Et il y a donc devant cette victoire et son talent, donc l'exhumation donc de ces tweets qui ont plusieurs années. Et c'est vrai que à la lecture de l'exhumation de ces tweets et autres, on ne peut être que choqué par ce qui a été dit. Oui. Et je continue la chronologie. Elle aussi a été étonnée par l'exhumation de ces tweets. Et devant l'émoi et l'effroi pour la famille des familles des victimes. Les membres de la République, entre guillemets, et tout venant, elle fait des excuses et amende honorable, je trouve, assez correcte, où elle dit que d'ailleurs, elle reconnaît que tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a écrit, elle a été comme adhérente, malheureusement, de thèses complotistes, et à son excuse, et je pensais que ces excuses allaient suffire, parce que qu'on ressort, parce que on peut attaquer, c'est vrai, tous ceux qui adhèrent aux thèses complotistes, mais quand une personne veut sortir la tête de l'eau et dire c'est vrai, voilà, je m'excuse, j'ai versé dans des thèses complotistes plus que scandaleuses et autres qui ressortent à la faveur malheureusement de ma victoire, mais je m'en excuse. Mais la polémique, on en reviendra tout à l'heure, est tellement lourde que je retire ma candidature.
Bon, je vais donner la parole à Mohamed Benjebourg. On va marquer une courte pause, c'est la première coureuse pause publicitaire. Restez avec nous parce que, vous savez, Samira du 92 nous appelle, Bilal Le Mans, Mohamed de Lyon, enfin Mohamed il est intervenu tout à l'heure, et enfin Zidane de Toulouse. À tout de suite, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
18h40, le grand déballage, c'est jusqu'à 20h. Merci, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le. Trois sujets encore à attaquer. Tout à l'heure, l'affaire Tariq Ramadan. Et puis ensuite, on traitera de la neige qui a paralysé l'Île-de-France. Est-ce que vous-même, vous avez été coincé avec à la fois, évidemment, les bus, les RER, les métros, etc. On en parle. Et enfin, vous savez, c'est inédit, un peu exceptionnel, la guerre d'Algérie. La France qui reconnaît le droit à une pension aux victimes civiles algériennes. Voilà les sujets qui nous attendent. Mais pour l'heure, eh bien, on finit et on boucle cette affaire de Voice avec Menel.
Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Et les influenceurs Stéphane Tiki, qui représente les Républicains au téléphone, Mohamed Benjebourg, consultant en communication culture, et enfin Jean-Claude Chikaya, qui est le chercheur hein, renommé et de renom au sein de l'IPSE. Tout de suite, je vais accueillir Khalil de Paris, ensuite Fatima de Paris, 0153 48 3000. Bonsoir Khalil, bienvenue à toi, on t'écoute.
Bonsoir.
On t'écoute,
remercie,
cher ami.
Je vous remercie de me donner la parole. C'est assez particulier, je veux dire. Enfin, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Objectivement, elle a son talent. Donc le talent, elle l'aura toujours, elle le gardera. Et ils ont beau l'attaquer, ils ont beau faire ce qu'ils ont fait, entre guillemets, pour essayer de la déstabiliser. Elle a décidé d'une manière unilatérale de quitter cette émission, et c'est tant mieux pour elle. Par contre, son talent est avec elle, et l'accompagnera. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, je voudrais un peu m'adresser à Stéphane. Si on commence à fouiller dans votre vie, et qu'on commence à retirer un certain nombre d'éléments que vous avez pu évoquer, je sais pas, que ce soit des éléments un peu à la Nadine Morano, ou éventuellement à la Éric Zemmour ou autre, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on associe votre nom avec le Parti Républicain que vous représentez? Je crois pas. Donc il aurait fallu peut-être, concernant cette gamine, qui a quand même 20 ans, c'est de bien faire la part des choses.
Exactement.
Entre ce qu'elle dit et son talent. C'est deux choses complètement distinctes. Ça, c'est le premier élément. Parce que sinon, à ce moment-là, il faut plus prendre de joueurs de foot. Il faut plus prendre de joueurs de basket. Il faut plus prendre de joueurs de hand. Quand vous savez que les frères, par exemple, Karabatic, qui ont quelque part un peu été condamnés, décision de justice, ont joué la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde, pardon, ils ont représenté la France, ils ont chanté la Marseillaise, la main au cœur, et quand on sait qu'ils ont été suivis en justice, je veux dire, personne ne s'est exclamé, personne n'a dit quoi que ce soit. Donc, il faut arrêter un peu, et ça, je m'adresse essentiellement aux Républicains. Si je n'ai pas de parti politique associé, je veux dire, je ne suis pas du tout ni socialiste ni quoi que ce soit, il y a bien longtemps qu'on n'y croit plus. Mais je m'adresse essentiellement aux Républicains. Dès lors que ça touche l'islam, il faut que vous la rameniez. Mais moi, je vais vous dire, si on commence à fouiller dans votre vie et qu'on y associe le parti politique pour lequel, je veux dire, lequel vous représentez, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on fasse l'amalgame entre les deux?
Merci Khalil. Khalil, attends, reste avec nous. Il y a Stéphane Tiki qui représente les Républicains qui souhaite répondre. Stéphane.
Moi, je pense une chose, Khalil. Le talent est avant tout la clé. Et c'est vrai qu'elle a du talent et ça, personne ne peut le dire. Vous avez soulevé un point essentiel tout à l'heure par rapport au frère Karabatic. Moi, j'ai déjà dénoncé, hein, le fait qu'il n'ait pas le même traitement médiatique que Karim Benzema, parce que Karim Benzema n'a jamais été condamné et on n'a pas voulu le prendre dans l'équipe de France, alors que Frank Karabatic, eux, ont été condamnés, ils ont été pris. Moi, j'ai dénoncé justement ce 2 points 2 mesures, parce que, encore une fois, Karim Benzema, je pense qu'il a le talent et qu'il mérite d'être en équipe de France. Voilà, je le dis.
Bien sûr. Jean-Claude Chikaïa souhaite intervenir.
Sur les musulmans. Et par rapport à ce que vous dites sur les républicains, je pense juste que chacun est responsable des mots et des propos qu'il tient. Moi, je m'appelle Stéphane Tiki, je ne suis pas responsable de ce que dit Nadine Morano, Eric Zemmour. Et si jamais ils avaient des propos dénoncés, graves ou racistes par rapport aux musulmans, je serais le premier à dénoncer. Parce que moi, je lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre tout, et contre l'islamisme. À partir du moment où les propos sont vraiment catastrophiques et calamiteux, il faut le dénoncer. Et moi, je dénonce. Maintenant, juste pour terminer, avant de faire la parole aux autres, moi, je ne dis pas qu'elle n'a pas de talent, ou je ne critique pas ça, je dis qu'elle a du talent, mais juste que ses propos ne sont pas acceptables. Maintenant, elle s'est excusée et la page est tournée. Moi, je ne veux pas m'acheter.
Jean-Claude, Stéphane, s'il te plaît, Jean-Claude Chikaïa.
Non, la question du talent, on l'a pas évoqué en voulant se mouvoir en spécialiste d'artiste de la chanson. C'est juste dire que c'est son talent extraordinaire qui a interpellé les réseaux. Et c'est plutôt les réseaux et ce tribunal populaire, parce que là depuis 3 ou 4 minutes, on parle de personnes qui elles ont été poursuivies sur le plan pénal, alors que Mélène, elle n'a pas été poursuivie sur le plan pénal. Et ce que je rappelais tout à l'heure, c'est à la faveur de son talent et qui a été donc remarquable, que des personnes se sont permis d'aller exhumer des tweets qu'elle a fait. Et elle ne passe pas du tout pour être une victime. Elle explicite, elle donne des excuses explicites. Elle demande, et je pense que ces excuses sont aussi dignes que son retrait. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, attendez-moi, j'ai évolué dans mon cheminement intellectuel, je suis pour rassembler les gens, et je sais ce que apparaître à la télé avec un voile ou dans la rue et autres, je sais ce que ça génère, mais je m'affirme ainsi et comme cela aujourd'hui. Elle explicite, elle ne veut qu'on l'excuse sur rien, mais elle s'excuse sur tout. Et donc, c'est important de le savoir, et elle n'a pas été poursuivie pour ses propos, elle n'est pas poursuivie pour ses propos, elle n'a pas été condamnée. Donc il faut, je rappelle, comment on fait dans notre République quand les gens ont dit des choses qu'il ne fallait pas, notamment sur le plan complotiste, et quand elle sort justement de ces thèses-là, est-ce qu'ad vita aeternam, sans passer par les tribunaux, le tribunal populaire des réseaux sociaux, vont condamner des personnes ad vita aeternam en faisant croire que personne peut ou prou a des choses à se reprocher dans sa vie personnelle.
Je continue d'ouvrir l'antenne, 0153 48 3000, partout en France et dans le monde d'ailleurs, vous pouvez intervenir. Khalil, merci à toi Khalil, à bientôt.
Je vous remercie, très rapidement je voulais rajouter quelque chose.
Rapidement s'il te plaît.
C'est pas un tribunal populaire, je veux dire, il faut un peu arrêter de se voiler la face, si je peux me permettre cette expression. On n'est pas en face d'un tribunal populaire, on est en face d'un petit groupuscule, limite un peu facho. Moi, j'appelle ça un peu la valsosphère, parce que ça vient quand même aussi des moyens de pensée de valse. Moi, je voudrais rajouter un tout petit dernier élément concernant quelque chose d'assez flagrant. Vous savez, vous connaissez tous comme moi BDS. BDS, ils ont été nommés pour recevoir le prix Nobel de la paix. Vous savez, le seul pays où on le boycotte, c'est la France. Interrogeons-nous sur notre fameuse liberté d'expression, notre liberté de penser. On est en train de se détruire et on est en train d'évacuer tous les talents. Moi, j'ai dépassé la...
Alors, là, on a écarté... Khalid, on a écarté le sujet, on a un peu dérivé, mais bon, on a bien saisi, évidemment, ce que tu veux nous dire. On va rester sur le sujet de Ménet. Merci, Khalid. Tu interviens quand tu veux, évidemment. C'est tous les vendredis, le grand déballage. Il y a l'affaire Ramadan qui arrive tout de suite. Fatima, bonsoir, Fatima.
Bonsoir, Adil.
Bonsoir, bienvenue à toi.
Voilà, mais l'horaire que tu as pris, ça va être tous les vendredis pizza, parce qu'on peut plus bouger de la radio.
C'est ça, je vous coince avec moi jusqu'à pendant 2 heures, jusqu'à 20 heures.
C'est scotché. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, avant, je reprochais aux Maghrébins de regarder les chaînes arabes, d'acheter des machins et tout. Mais maintenant, je comprends pourquoi il y a pas mal de Maghrébins qui regardent plus les chaînes françaises. Je me dis, quand on vit en France et on regarde des chaînes étrangères, non. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à la télé, il y a bien longtemps que je l'ai mis sur le trottoir. En plus, j'habite à côté du Bois de Boulogne, donc c'est là l'endroit où elle doit être. Bon. Et donc, en ce qui concerne Nenel, moi, je voudrais lui dire 2 choses. Premièrement, elle aurait dû continuer, enlever son foulard, lâcher ses beaux cheveux, et montrer à Monsieur Fink qu'elle croûte, que nous somme, qui a dit que pendant les trucs de Johnny, là, qu'il n'y avait pas de rebeux, il n'y avait pas de noirs. Les noirs, d'accord, on les voit. Mais les rebeux comme Menel, il ne peut pas lui les différencier. Ceci d'une part. Et je lui dis de se présenter à des voices de MBC, des voices arabes. Et là, elle verra ce que c'est la classe. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je vais dire juste dire un mot sur Ramadan.
Oui.
Si vous me permettez, Adil.
Allez, parce que ça tombe bien, j'enchaîne avec Ramadan.
Voilà. Alors, en ce qui concerne Ramadan, une ex-danseuse du ventre qui dit que Ramadan m'a violée. Alors, sa parole est sacrée, monsieur Ramadan, il est dans de beaux draps maintenant. Mmh. Alors que la petite fille d'un ex-président, eh ben, sa voix, elle ne vaut plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à chaque fois, vous dites, pourquoi on dit que c'est des complots? Mais bien sûr qu'il y a plein de complots. Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Vous, en tant que républicain ou ceci ou cela.
C'est un peu fort quand même, hein. Vous y allez fort, là, Fatima. Mais
non,
bon.
Non, non, non.
J'écoute ton point de vue.
Pareil. Adil, s'il vous plaît, vous êtes tous pareils, que ce soit républicain, que ce soit socialiste. Il y a eu 60% de gens qui n'ont pas voté. Les gens ont voté pour quelqu'un qui ne connaissait ni Adam ni Adam. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous avez raté, tout raté. Et donc, moi, je dis que c'est un acharnement, que ce soit en ce qui concerne Ramadan, que ce soit en ce qui concerne cette jeune fille, qui est très belle. Et moi, je lui dis, franchement, ne t'en fais pas, TF1, c'est la dernière roue de la charrette. Bon. Je te remercie, Adil, et je t'embrasse.
Merci, je t'embrasse vieille, également.
Ne t'en fais pas, je suis très vieille.
Non, mais moi, écoute, vieille ou pas vieille, j'embrasse mes auditeurs.
Au revoir, Habibi, au revoir.
Au revoir, à bientôt. Quelle belle déclaration. Merci beaucoup, ma chère Fatima, et de ta fidélité. Messieurs, dites-moi, 0153-48-3000, vous continuez à nous appeler, nous interpeller aussi. Vous êtes là, il y a Stéphane Tiki qui est là également. On va faire un tour de table pour clore ce chapitre concernant Menel. Elle a décidé de poser sa démission finalement. Est-ce qu'on a le sentiment qu'elle a été poussée ou est-ce que c'est une décision personnelle? Est-ce un bon choix? Et on passe au sujet.
C'est un choix personnel. Voilà, et elle est sortie, sa sortie est digne, elle est aussi digne que sa participation, franchement. On aurait aimé que certains hommes politiques, et je ne vise personne en particulier, lorsqu'on découvre des choses sur leur vie ou sur leur passé ou sur etc., fassent de même. Après, voilà, c'est un choix, elle aurait pu effectivement continuer. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Fatema, la seule chose sur laquelle je suis d'accord dans ce qu'elle a évoqué, c'est qu'effectivement, il y a un vrai échec des politiques, et je suis persuadé que Stéphane en est conscient, puisqu'il est bien placé pour le voir, d'avoir autant d'abstentionnistes et de voir un candidat qui arrive et qui gagne la partie parce que il y a un désaveu total des partis traditionnels. Heureusement que c'était lui d'ailleurs et pas le Front National qui a emporté la mise.
Jean-Claude Chikaya.
Oui, je crois qu'il y a trois choses qu'on peut retenir de Menel, c'est sa participation brillante, ses excuses brillantes. Et son retrait tout aussi brillant et digne. Elle ne se victimise pas, elle ne dit pas qu'il y a d'acharnement. Elle comprend toutes les réactions et telles que ça a pu toucher donc la famille, les familles des victimes ou la République et autres. Elle n'est pas poursuivie pour ce qu'elle a dit. Elle fait amende honorable. Maintenant, dans notre République démocratique, on peut dire et faire des erreurs et les expliciter et ne pas avoir. Ce n'est pas marqué dans aucun code pénal ou ad vita aeternam. Surtout qu'on n'a pas été condamné d'être poursuivi par la vindicte et la vulgate populaire, même si tout à l'heure le côté tribunal populaire c'était donc une expression qui voulait dire c'est plus, je pense que c'est dans cette affaire, hein, parce que ni TF1, ni la production, ni les politiques au gouvernement ne sont vraiment insérés dans cette politique, non condamné. Voilà. Elle voulait pas que ces tweets plus la polémique en rajoutent au mal que ces propos ont pu faire aux victimes. Et je trouve ça assez digne. Mais il est bien. Et ce qu'il faut retenir et ce qui est exemplaire, c'est qu'elle sur ses propos liés à une vision complotiste, eh ben elle en soit sortie dignement et intellectuellement. Voilà.
Et enfin, dis-moi, mon cher Stéphane Tiki.
Une fille talentueuse, brillante, comme ça a été dit précédemment, des propos qui ont choqué, elle s'est excusée, la page est tournée, et je trouve d'ailleurs qu'elle sort de là par le haut, notamment avec une pensée pour les victimes et les familles et les proches qui ont beaucoup été touchés dans ces attentats-là à Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et après, oui, je rejoins ce que disait tout à l'heure mon camarade, effectivement. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la politique va bien, puisque plus de 50% d'abstention au présidentiel, plus de 50% d'abstention au législatif, ça veut quand même dire qu'un Français sur deux ne vote plus. Et ça veut aussi dire que c'est un échec aussi des partis politiques traditionnels, hein, puisque Rappelons quand même qu'En Marche a été créé que l'année dernière. Et ça permet à chacun d'entre nous de se remettre en question et aussi de reparler aux autres. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je salue toujours cette initiative d'Adil d'ouvrir aux auditeurs, parce que c'est vrai que avant je trouve que la politique se perdait un peu parce qu'on parlait seulement entre nous, et je pense qu'on pourra reconquérir le cœur des gens, peu importe les parties dans lesquelles on est, hein, en parlant avec les autres, parce que c'est ce qui a beaucoup manqué. Et c'est vrai, comme disait tout à l'heure encore quelqu'un, heureusement que, et moi je fais partie de ceux de mon parti qui, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron parce que on a échappé au pire.
Stéphane, je peux te garder encore quelques minutes pour parler et traiter ce sujet concernant l'affaire Tariq Ramadan. Second sujet, mesdames et messieurs, dans le grand déballage, la détention provisoire maintenue, mise en examen pour viol et viol sur personne vulnérable le 2 février dernier. Le théologien musulman Tariq Ramadan reste incarcéré, sachez-le. Les juges d'instruction travaillent désormais, vous savez, sur un dossier à la fois explosif, très sensible. C'est désormais, messieurs, et oui, et mesdames, parole contre parole, on va avoir votre réaction. Et puis on parle de ce fameux billet. Ce vol, vous savez, à bord du vol, il était Tariq Ramadan était-il bien à bord du vol qu'il indique avoir pris? Il n'a pas produit de ticket d'embarquement, mais une fiche de réservation. Alors, il faut donc vérifier sur les listings de la compagnie aérienne, hein, si vraiment il a voyagé ou pas. Alors, presque j'ai envie de dire, est-ce qu'il constitue pas quelque part un alibi? Bon, on en parle, ça va faire débat. On va marquer une courte pause publicitaire et on se retrouve. Je vous invite donc à venir aussi débattre et commenter cette actualité sur l'affaire Tariq Ramadan. Eh oui, est-ce qu'on peut parler aussi de là, de complot? C'est vrai, quand je tends l'oreille, on me parle beaucoup de ça. 01 53 48 3000. Restez avec nous, ne bougez pas.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
18h42, merci d'être avec nous, c'est le grand déballage. Vous le savez, inscrivez-le désormais tous les vendredis 18h-20h, le grand déballage avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, le grand déballage avec Rosa Méziane, entrepreneur, et puis enfin, Jonas Haddad, qui est avocat et un acteur politique au sein des Républicains. Messieurs, madame, messieurs, on va traiter de ce second sujet, plainte pour viol contre Gérald Darmanin. L'affaire continue de créer des fractures au sein de LR pour viol contre Gérald Darmanin. Mais en plus, c'est l'opposition qui s'y met maintenant. C'est les Républicains. C'est Wauquiez qui a ainsi réitéré publiquement son appel à la démission de Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol. On en parle, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On peut même, d'ailleurs, hein, on va s'amuser, enfin on va pas s'amuser, pardonnez-moi, on va même faire une comparaison avec le cas Richard Ferrand, Bayrou, Goulard, de Sarnez, à qui on a demandé de démissionner, sauf Darmanin. Pour quelle raison? Jonas Haddad.
C'est dans la description que vous avez fait tout à l'heure de ce que je peux faire dans la vie, je suis à la fois avocat et acteur politique. Donc en fait, je vais essayer de m'exprimer au titre des deux.
Ça va pas être simple, hein?
Ça va pas être simple.
Ouais, ça c'est clair.
En tant qu'avocat et donc auxiliaire de justice, on a l'obligation de respecter la présomption d'innocence de quelqu'un lorsqu'il est accusé.
Est-ce qu'on a dit la même chose à Bayrou et à Goulard?
La réalité, c'est qu'il y a un jeu politique, un système politique qui consiste aujourd'hui à ce que quelqu'un comme Gérald Darmanin, il représente une valeur plus importante pour Macron en sa qualité de guerrier, c'est-à-dire de porteur de la flamme du gouvernement, que Bayrou qui avait réussi à raccrocher par un accord, parce qu'il savait que de toute façon il n'y ferait rien, sa place dans un gouvernement.
Attention Jonas Haddad, parce que moi-même je vais me faire taper. Ça sous-entendrait qu'il est visé par une enquête préliminaire pour crime sexuel, donc c'est pas grave.
Non, ça sous-entendrait qu'il est présumé
donc
innocent.
Donc c'est pas grave parce qu'il est bon.
Non, ça sous-entendrait qu'il est présumé innocent, mais que la capacité de Darmanin à se détacher par lui-même, parce que vous parliez tout à l'heure de Goulard, etc. Tout, ils ont démissionné par eux-mêmes. On peut dire ils ont été démissionnés.
Ça a poussé quand même.
Mais
hein.
Quand on se sent aussi faible...
Hein,
pas,
oui.
Ils n'ont pas été virés, ils ont été démissionnés.
Quand on se sent faible, c'est plus compliqué. Deuxièmement, je ne peux pas me baser uniquement sur ce qui a été dit dans la presse. Parce que j'ai une expérience particulière, parce que je traite en ce moment de dossiers qui sont particuliers, je vois bien que tout ce qui est dit dans la presse n'est pas une réalité, surtout dans des affaires qui sont aussi intimes.
Et vous êtes en train de nous dire que c'est le procès de la presse, là, hein?
Non, on est sur une ligne de crête, et dans une ligne de crête, il faut écouter les deux parties. Non, absolument pas, puisque le procès, c'est pas nous qui allons le faire. Nous sommes là pour juger d'une situation qui est une situation politique. D'un point de vue juridique, aujourd'hui, ce seront des juges, des magistrats qui trancheront. En revanche, d'un point de vue politique, je perçois bien la valeur de quelqu'un comme Gérald Darmanin Et du coup, je perçois bien le fait que Macron ne veuille pas le lâcher. En revanche, là, on peut pointer une incohérence, et c'est réel. C'est quand on voit Marlène Schiappa, concernant Daval, s'immiscer dans une décision de justice et d'un autre côté faire bloc avec Gérald, là, il faut le dénoncer, parce que dans ce cadre-là, c'est une incohérence majeure.
On va prendre juste un auditeur, si vous me l'accordez. Samir du 94. Bonsoir, Samir. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, bienvenue à toi. Alors,
je voudrais intervenir sur le problème, à mon avis, ce qui est arrivé à ce monsieur, là, le ministre. À mon avis, hein, parce qu'il y a tellement de femmes dans ces bureaux là-haut, là, dans les ministères. Certaines sont aguicheuses. Il a dû tomber dans le piège de la bouteille, à mon avis. Il s'est fait attraper. Parce que, à mon avis, ces gens-là côtoient des belles femmes toute la journée.
Ouais.
Et il y a des belles femmes aussi qui abusent. Bon, non, on va pas dire abuser, mais qui s'habillent d'une certaine manière. Donc l'homme, il est fait.
Attention là.
C'est tendu.
Je pense qu'il s'est fait avoir, il s'est fait attraper comme un
pauvre victime.
Mais je suis pas pour le.
Je peux pas laisser finir en fait. C'est pas possible.
Rose.
Donc en fait, à partir du moment où une jeune femme s'est habillée de manière aguicheuse, ma foi, elle l'a un peu cherché et le pauvre Gérard Darmanin s'est fait avoir.
Il y aurait moins de problèmes, je pense. À mon avis, c'est mon avis.
Écoutez, monsieur, si vous ouvrez votre chemise, si vous ouvrez le col de votre chemise,
Samir. Il y a juste Jonas Haddad qui souhaite aussi t'interpeller.
Écoutez, Samir. Si vous ouvrez demain le col de votre chemise jusqu'à 4 boutons, est-ce que vous attendez qu'il y ait une femme qui vous saute dessus et qui vous viole? Vous pouvez pas dire ça. On peut pas dire que parce qu'une personne s'habille de façon aguicheuse, c'est normal qu'elle se fasse violer. C'est scandaleux de dire ça.
Non, monsieur, c'est pas ça que je voulais dire.
Vous voulez dire quoi quand vous dites qu'elle s'habille de façon aguicheuse?
Il y a certaines femmes qui s'habillent exprès pour qu'on les regarde.
Mais les regarder, c'est pas le sujet de les regarder.
Samir, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ça veut dire, en gros, elle a une tenue vestimentaire de façon provocatrice. C'est ce que vous voulez nous dire, Samir?
Voilà.
Mais qu'est-ce que ça change?
Mais ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire.
Elle pourrait provoquer du matin jusqu'au soir. Elle pourrait provoquer du matin jusqu'au soir.
Oh mais Samir, il y a un problème, pardonne-moi, il y a un problème, quelque chose que j'ai du mal à saisir dans ce que vous dites. C'est-à-dire que, admettons combien même Samir, par exemple cette jeune femme, qui s'habille de façon très provocatrice, d'accord? Mais là on parle de viol. Quel est le lien, le parallèle que vous voulez faire avec tout ça?
Monsieur, laissez-moi parler s'il vous plaît.
Allez-y, je t'en prie.
Viol, c'est par excitation de la personne. Si les gens s'habilleraient correctement, il y aurait moins de pervers, il y aurait moins de sadiques,
et bah pas du tout.
Moins de regards. Il y aurait moins de... Comprenez ce que je veux dire? Allez dans les ministères, moi je suis dépanneur, je suis serrurier. Des fois je vais travailler dans les ministères, je vois les femmes, elles sont en mini-jupe avec des collants, avec des traits derrière, avec des talons.
Écoutez, excusez-moi, en Afghanistan, les femmes, elles sont couvertes de la tête aux pieds, il n'y a pas un centimètre qui dépasse, et pourtant elles se font violer.
Eh ben on les regarde pas.
On les regarde
pas. Non, mais elles se font violer quand même.
Il
n'y
a pas des viols en Afghanistan.
Elles se font violer quand même. Il a raison, Jonas.
Non, je pense pas.
Non, il n'y a pas de viols en Afghanistan. Il y a des meurtres, il y a des lapidations.
Comme il y en a au Maghreb, comme il y en a dans tous les pays du monde.
Paris. Elles sont protégées.
Il y a des femmes violées, vous saviez, c'est vrai. Et je vais vous dire quelque chose, il y a même des femmes voilées, sans qu'elles soient provocatrices ou quoi que ce soit, qui se font violer. Qu'est-ce que vous dites à ça, Samir?
C'est très très rare, monsieur.
Et je vous en dis, moi, je quand même.
Vous en savez rien parce qu'elles vivent dans des pays où, malheureusement, elles sont couvertes de honte et elles ne parlent pas. Et il n'y a pas la libération de la parole. Donc vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien.
Le problème, c'est la tenue vestimentaire, s'il vous plaît. Quand la femme se corrigera, l'homme sera moins
pervers. Bon, on respecte. En tout cas, voilà.
Je respecte pas ce genre de.
Non, mais quand je dis on respecte, c'est-à-dire la liberté de parole, la liberté de penser. On les conçoit d'accord ou pas. Évidemment, vous l'exprimez comme Jonas, comme toi, Rose, exactement.
Ouais.
Samir, tu as évidemment exprimé ta pensée. On l'écoute. Si d'autres ne sont pas d'accord ou sont d'accord, on les invite à nous joindre au 0153 48 3000 et vous êtes les bienvenus. On parle de viol quand même, hein, contre Gérald. La plainte pour viol contre Gérald Darmanin. Merci Samir. Hein.
Bonne soirée, merci.
Merci à toi.
Samir illustre exactement le problème de ce soutien et de ce bloc du gouvernement. Le problème, c'est que quand on a des affaires, alors déjà, on va juste rappeler. Dans quel cadre Emmanuel Macron s'est fait élire après les affaires Sarkozy. Après les affaires Fillon, il a quand même axé sa campagne présidentielle sur la probité, la transparence et l'exemplarité. D'accord. Dès que les premières affaires ont émergé.
Oh, Rose, ça y est, elle a sorti.
Non, mais parce que ça m'agace. Et là, pour le coup, je suis vraiment agacée.
Ouais.
Et on va juste prendre un tout petit peu de recul parce que je pense que du coup, Samir illustre parfaitement le problème. Non, j'en veux pas à Macron à titre particulier. Je pense que ça doit être quelqu'un de probablement très sympathique. Pour en revenir.
Mais qu'est-ce que tu lui reproches au chef de l'État? Dis les choses clairement.
Dès le début du quinquennat, quand on a en effet miroir les affaires, et tu l'as rappelé, Bayrou, Ferrand et
Goulard et de Sarnez.
Qui ont été amenés à démissionner. On peut pas en face, pour des accusations aussi graves, laisser un ministre en poste, puisque forcément ça produit ce genre de choses. Quel est le message qui est envoyé quand on a Marlène Schiappa, qu'on a fabriquée en icône des droits femmes-hommes, enfin de l'égalité femmes-hommes, et qu'en face, quand on a un ministre qui est accusé de choses aussi graves, on le laisse en activité. Je ne veux même pas. On n'a pas les détails et les faits de cette affaire. En revanche, ce qu'on a invité, on a invité les autres ministres à se retirer pour justement préparer leur défense.
Le problème, c'est
le verbatim.
Et puis, il y a la présomption d'innocence.
Oui, mais au-delà de la présomption d'innocence, c'est exactement la même chose pour les autres ministres.
Oui,
on leur a demandé de prendre du temps pour se défendre. Et juste, le verbatim qui est utilisé par tout le gouvernement, c'est on fait bloc autour de Gérard Darmanin. Je suis assez d'accord. C'est comme Emmanuel Macron a extrêmement besoin de lui pour restructurer le parti, pour créer la stratégie et essayer d'avoir un ancrage local, parce que c'est un homme fort, c'est un homme de terrain et c'est un homme qui est particulièrement apprécié. Alors, on fait bloc autour de lui. Le message qui est envoyé aujourd'hui aux jeunes femmes face à toute cette libération de la parole,
vous scandalise.
C'est taisez-vous. Pourquoi? Parce que derrière, au final, quand vous êtes un homme de pouvoir, vous n'avez pas exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres.
Je vais saluer Jonas Haddad qui quitte le plateau parce qu'il va dans un autre média, sur un autre média. Bon courage, Jonas Haddad.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation.
Tu reviendras ?
Avec grand plaisir, comme toujours.
Merci infiniment. On est inondé d'appels, je tiens à vous le dire. Bien. Inondé, donc priorité aux auditeurs. Tiens, Zora, je vais commencer, s'il te plaît, par Zaya. Zaya de Paris. Zaya, parce que je veux écouter les femmes, moi. Zaya, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à toi. Quel est ton commentaire ? Comme vous êtes beaucoup à nous appeler, je vais te demander d'être... Voilà, de tenir la parole pendant 30 secondes, une minute.
Je vais essayer. Alors, bonsoir à tout le monde déjà.
Bonsoir.
Voilà. Et moi, j'ai pas trop suivi, mais c'est pour juste faire une parenthèse. Peu importe la femme, comment elle s'habille.
Merci.
Je dis que, moi je mets pas de mini-jupe déjà. Parce que dans les métros, les transports en commun, je me méfierais. Mais peu importe, on sait pas comment ça s'est passé. Mais je dis, c'est pas une raison de violer une femme, quoi.
Ah oui. Voilà.
Il est là le problème du discours du gouvernement. C'est qu'à un moment donné, on peut légitimer ce genre de comportement. Alors, je ne dis pas que M. Darmanin est coupable, mais qu'à un moment donné, faire bloc autour de lui, c'est envoyer un mauvais message à toutes ces femmes qui ont été victimes ou qui seront victimes, à un moment donné, de se taire.
Voilà, on met des étiquettes après sur les femmes. Et nous, les hommes, on leur fait pas ça. On respecte. Ils doivent nous respecter, quoi.
Merci, Zaya. Merci. Voilà. Je vais vous demander, comme vous êtes très nombreux à nous appeler partout en France, vraiment, je vous accorde 30 secondes, une minute maximum pour pouvoir donner la parole à tout le monde. Il est 18h53 et c'est le grand déballage. Hamza, vous nous appelez d'où ? Tu nous appelles d'où, Hamza ? Bonsoir.
Bonsoir, je vous appelle de Versailles.
De Versailles. Bienvenue à toi, Hamza. On t'écoute.
J'étais dans la voiture et j'ai bondi quand j'entendais ce que Samir disait. Parce qu'il y a un raccourci qui est quand même exceptionnel qu'il vient de faire.
Oui.
Il y a une présomption d'innocence, elle est des deux côtés. Autant la femme est présumée innocente, autant le monsieur est présumé innocent. Mais faire un raccourci, de se dire... parce qu'elle est comme ça, ça donne justification à de tels actes, ça c'est quand même fort de dire ça. Et alors j'entends bien que éventuellement, c'est vrai, il pourrait peut-être tomber dans un piège et tomber dans une sorte de chantage, mais vu la position qu'il a, il ne se doit pas de tomber dans ces histoires et les conséquences qu'il y a derrière. Et ce qui me choque d'autant plus aussi, c'est que il est toujours en poste. On doit avoir un niveau de poste.
Pour toi, Hamza, il doit démissionner comme tous les autres.
Il y a une certaine exemplarité. Après, il y a toujours cette présomption d'innocence, mais vu la gravité des faits et vu le poste qu'il occupe, il doit démissionner. À la limite, après l'enquête, s'il n'est pas coupable, on peut le réintégrer. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas justifier cet acte qui n'est pas justifiable, et surtout pas par la tenue d'une dame, qu'elle soit légère ou pas.
Merci Hamza pour ton intervention. Merci. Je vais accueillir Nordine du 9-3. Bonsoir Nordine. Allô, bonsoir Nordine, tu nous appelles d'où précisément ?
Bonsoir, de Sevran, bonsoir à vous tous.
Sevran, bienvenue à toi, on t'écoute.
Une petite dédicace à la Rose que je connais très bien.
Bonsoir.
Voilà, et comment tu vas ?
Ça va très bien, merci.
On peut vous laisser, il n'y a pas de souci.
Non, ne vous inquiétez pas. Non, je voulais juste savoir, il n'a pas été mis en examen, on est bien d'accord ?
Oui. Non.
Non.
D'accord. Donc si demain 5 à 10 ministres sont soupçonnés de viol ou autre chose, on demanderait pour la plupart, enfin je suis pas d'accord avec Rose, hein, mais bon c'est pas grave, on leur demanderait de démissionner alors. Il y en a entre 5 et 10, c'est-à-dire l'ensemble du gouvernement, quoi.
Non, mais c'est toute la problématique. À un moment donné, pourquoi on effectuerait deux poids, deux mesures, alors qu'on a quand même eu 4 cas de personnes à qui on a demandé de démissionner, et parce qu'on aurait un homme fort du gouvernement, parce qu'on Monsieur Macron a effectivement fait une belle prise de guerre avec Gérard Darmanin, parce que Darmanin est quelqu'un de puissant, d'intelligent, et effectivement qu'il y a une vraie stratégie pour En Marche. Alors parce que il serait puissant, il serait un homme de pouvoir ou en tout cas un homme qui aurait de l'intérêt. Il pourrait s'exempter de démissionner
Nordine.
Et d'assurer sa défense.
Nordine.
J'ai pas le contraire. J'ai justement, si demain, il y en a entre 5 et 10 qui sont soupçonnés d'un viol ou de quoi que ce soit, on demanderait...
Mais non, ça poserait justement un problème. Ça veut dire que aujourd'hui, les violences qui sont faites aux femmes, elles sont plus que généralisées et il faudrait qu'on commence réellement à les prendre au sérieux et qu'on fasse du ménage. Voilà ce que ça voudrait dire.
Merci Nordine. Nordine, merci à toi, merci à toi et merci de ta fidélité, restez fidèle. C'est ça, voilà pourquoi j'aime bien Le Grand Déballage, parce que justement, c'est la seule émission dans le paysage radiophonique où les auditeurs clashent avec les débatteurs. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup, où ils peuvent appeler à n'importe quel moment de l'émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. Reste avec nous.
Le Grand Déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Bienvenue à vous tous, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est le grand déballage de 18h à 20h avec Emmanuel Dupuis, qui est lui le président fondateur de l'IPSE, avec Julie Dénès, auteur, rappelons quand même ton ouvrage.
Une poule sur un mur.
Avec, aux éditions
Michalon.
Michalon, et enfin, c'est un carton, hein, ça continue de cartonner d'ailleurs.
Oui, je suis très content.
Bravo, félicitations, on est ravis.
Appel à l'acheter.
En gros, je viens de l'entendre. Eh ben, il vient de faire à ma place. Allez l'acheter, comme le dit, comme vient de le souligner Emmanuel Dupuis. Et enfin, Mehdi Amala, qui fait son baptême de feu. Lui, il est responsable digital. Ça va, tu te sens bien, là?
Super, au top.
Au top. Attention, pas trop au top. Julie Dénès, là, je pense qu'elle va venir te tacler dans pas longtemps.
C'est sûr.
Le débat continue aussi au 0153-48-3000, les réseaux sociaux, c'est tout ça, ça se passe ici. On continue de parler, vous savez, de ce consentement sexuel d'une fille de 11 ans, débat devant la justice. Et on pose la question ici, évidemment, il n'est pas question de juger quoi que ce soit, il est question d'en débattre. Moi, ce qui m'intéresse, Emmanuel Dupuis, c'est ce que tu as pointé simplement. Peut-on fixer la majorité dans le monde? Oui, non. Compliqué quand même, Emmanuel Dupuis.
C'est évidemment compliqué, puisqu'il y a la question,
très compliqué,
la question des mariages précoces, qui pour certains est un fait culturel. Il se trouve que j'ai vécu un an en Afghanistan, dans une autre configuration, puisque j'étais responsable politique des forces militaires françaises, mais c'est une question qui peut choquer, quand on voit des jeunes filles de 9 ans donner...
Et se marier surtout avec
des... Et se marier avec des adultes de 20 ou 30 ans de plus. Enfin, c'est, y a quelque chose qui, culturellement, sociologiquement... heurte la sensibilité d'un être humain de voir effectivement quelqu'un qui n'a pas atteint sa majorité intellectuelle, physique, physiologique, et être un objet, non pas un objet sexuel, mais un objet de possession, puisque c'est ça dont il s'agit. La question du mariage aussi, c'est la possession. En tout cas,
tu m'appartiens.
Dans un certain nombre de pays, c'est comme ça qu'elle est posée. La question sexuelle est une question qui est un tabou, mais honnêtement, c'est la possession. Alors évidemment, c'est pas simple. Le mariage précoce, comme le mariage arrangé, comme le débat aussi sur l'excision, pardon, est un débat qui devrait davantage nous intéresser ici. Pourquoi ça nous intéresse pas? Parce qu'on a l'impression que c'est loin de chez nous.
60 000 cas en France, hein, d'excision.
Oui, mais je sais bien, mais la majorité des Français, je pense, ne savent pas ça. Et donc, je pense qu'il est important, et j'en reviens à ce que disait précisément Julie.
J'avais parlé, les interviews avec toi, non, d'ailleurs, il y a quelques années, sur ce sujet, non?
Non,
je confonds, personne. Non, mais j'ai pas dit, j'avais fait un sujet là-dessus.
Non, mais je reviens à ce que disait Julie.
Dans une autre radio, à Radio France.
Je reviens à ce que disait Julie.
Je pensais que c'était toi, Julie Dénès.
Julie, dans la première partie du débat, tout ce qui advient sur notre territoire a des consonances mondiales. Et il n'y a plus aucun débat qui n'est pas notre débat, puisque nous sommes un monde interconnecté et nous sommes dans l'interculturalité, dans l'intergénérationnel. Il y a une sorte de volatilité, une dématérialisation où tout ce qui se passe loin de chez nous a un impact et nous intéresse. Donc cette question je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait 60 000 cas d'excision en France, eh ben, ça devrait être un cap politique. Mmh. Et je m'étonne que beaucoup de responsables politiques ne s'en emparent pas. Il se trouve, et j'en reviens, et je termine pour donner la parole aux autres, c'est un débat très médiatique. Et moi, je suis très heureux que ce soit un débat très médiatique, cette affaire judiciaire. D'aucuns auraient voulu que ce soit sous couvert de la décence ou par rapport au cas très personnel de cette jeune fille qui malheureusement et hélas s'est retrouvée victime. Mais je crois qu'au contraire, il faut qu'on en parle et qu'il faut qu'on en reparle. Pourquoi ? Parce que la responsabilité politique est très attendue d'une phrase. Et je termine. Le président Emmanuel Macron l'a redit hier devant la presse présidentielle. À titre personnel, lui, il est évidemment pour un rehaussement à 15 ans de l'âge de la liberté sexuelle en France.
Julie Dénès, Mehdi Amala, quand la famille dit clairement que la relation subie correspond pénalement au viol, puisqu'il y a eu pénétration.
C'est juridiquement correct.
Juridiquement correct.
C'est, quand on lit le code pénal, c'est ce qui est dit. Hein. C'est une pénétration. Alors c'est pas forcément anal ou dans les parties intimes génitales. Ça peut être la bouche, etc. Avec cette intention sexuelle derrière. Moi, ce qui m'a choqué quand ils ont commencé les débats, c'était de se dire oui, mais elle est consentante parce qu'elle s'est pas débattue. Là, c'est vraiment, on l'a entendu, on l'entend souvent. Elle ne s'est pas débattue, elle l'a suivie, elle n'a rien dit.
Bah, la mère de Sarah, elle décrit un enfant tétanisé, incapable de se défendre.
Oui, mais tu l'as quand même vraiment dans ce débat-là, et tu le retrouves souvent. Ça s'appelle la culture du viol, tout simplement, et la méconnaissance de tout ce qui peut se passer au niveau psychotrauma quand tu subis un viol. Et je suis bien placée pour en parler. Moi, je me suis pas débattue. Alors, ça voudrait dire quoi? Que j'ai pas été violée non plus à 18 ans. Et que comme la personne était chez moi, j'ai cherché, c'est de ma faute. Voilà. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait pour nos enfants, parce que ça touche aussi les garçons. Et il y a des milliers de cas de garçons qui sont violés. Il faut qu'à un moment, on dise, à partir de cet âge-là, c'est non. C'est non, et vous n'avez pas le droit de toucher à nos enfants. C'est comme ça, point barre, et il n'y a pas à tergiverser.
Avec un cadre juridique.
Et on est capable de mettre des âges, regarde, rien que pour avoir accès aux réseaux sociaux, on est capable de dire au niveau européen, c'est entre 14 et 16 ans. Alors pourquoi au niveau de cette majorité, enfin de ce non-consentement, cette présomption de non-consentement, on n'est pas capable de le dire? On a peur de quoi? On a peur de quoi?
C'est une vraie question, on a peur de quoi? Mehdi Amala?
Ouais, enfin, ce qui est compliqué dans ce débat-là, c'est tout est une question de qualificatif et de texte, hein, finalement, parce que là, il y a une émergence de mouvement avec le mouvement MeToo ou Time's Up, donc qui a été véhiculé par Hollywood. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que de définir et de valider de délimiter la notion du harcèlement. Peut-être que pour toi, une main sur une épaule, bah tu vas le qualifier d'un harcèlement sexuel, alors que pour moi c'est juste amical. Donc quelle est la limite
Mais les textes ils sont clairs. C'est pas parce que tu vas mettre la main sur mon épaule que je vais dire que tu me harcèles.
Pour toi peut-être.
Le harcèlement c'est un vrai comportement. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi. On sait où commence la drague, on sait où commencent les relations humaines, et on sait où elles se terminent.
Mehdi Amala, tu vas pas un peu loin là, mais toucher ton épaule, c'est...
Non, mais
pour certains, c'est quelque chose. Enfin, remarque,
moi, j'ai pas tactile en même temps, donc évite.
Vraiment, tout ce qui se passe en ce moment, c'est... où est la limite?
Donc... La limite, on la connaît tous.
Je suis pas si sûr.
Si, parce que ceux qui n'avaient rien à se reprocher, tous les hommes qui n'avaient rien à se reprocher, qui ont des relations saines avec les femmes ou avec les hommes aussi, ne se sont pas posé de questions en savoir, mais mince, est-ce que je dois changer
pour
mon comportement?
Pour toi, oui, on la connaît. Pour Mehdi, non. Pourquoi?
Oui. Alors, pourquoi tu l'as, pourquoi quel Mehdi, est ton souci, Mehdi, du coup?
Ah, non, mais moi, je connais mes limites, hein. C'est juste que je pense qu'il y a aussi un travail de prévention à faire dès le plus jeune âge.
Bien sûr. Mais l'éducation est la clé, Mehdi.
Dans les écoles, un peu partout. D'ailleurs, pour les parents qui nous écoutent, il y a une application qui s'appelle Family Link, qui permet le contrôle parental sur les smartphones de leurs enfants. Donc, on peut bloquer à distance les applications, l'usage. C'est vraiment une application au top.
Ça s'appelle comment?
Family Link. Elle est gratuite, donc vous pouvez d'ores et déjà
Link.
Ouais, la télécharger sur les stores.
C'est pas mal, ça.
Non, c'est une très très bonne initiative, ce genre d'application. Il faut pas avoir peur de changer nos relations. Moi, j'ai rien changé. Les hommes autour de moi n'ont rien changé à leur comportement parce que c'était des relations.
On va tous devenir des parano. Tu sais, je te touche pas,
non,
peux pas.
Non, mais c'est vrai. Mais non, il y a rien
éloigne-toi
à changer.
De moi.
Un harceleur, c'est complètement différent d'avoir cette relation.
Allez, plus sérieusement.
Aussi, non,
c'est vrai. Finalement, alors. alors est-ce que c'est pas finalement une exception française, Emmanuel Dupuy? Est-ce qu'on doit tout revoir, effectivement, comme le présente le chef de l'État?
C'est pas forcément une exception française, c'est sans doute un retard, ou en tout cas une insuffisante prise en compte de ce débat, qui, encore une fois, est un débat qui est sous-tendu par la raison. Le viol, juridiquement, c'est, je le cite, doit être lié à la preuve de l'absence...
D'un micro, d'un micro.
Pardon. Ouais. Le viol est lié à la preuve de l'absence de consentement de la victime. Il me paraît tout à fait logique, qu'on soit ici ou ailleurs, qu'un mineur n'a pas cette maturité. Et donc forcément, la question du consentement ne se pose pas qu'on est mineur. Point barre. Ce débat n'a pas été suffisamment pris en compte en France parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cas médiatiques. Ou du moins, on est dans une période, et je rejoins peut-être Mehdi, dans laquelle il y a une sensibilisation de plus en plus forte à ces questions. Je ne veux pas non plus toujours citer le président de la République, je ne sais pas un élu politique, mais il a quand même aussi rappelé un certain nombre de choses en disant « Attention, nous nous trouvons dans une situation où, si on n'a pas un débat structuré intelligent, on peut aller dans une forme de populisme institutionnel où tout serait quantifiable, tout serait qualifiable en agression. C'est très dangereux de vivre dans cette possibilité d'avoir une sorte de juridicisation sur tout acte que l'on reprocherait à autrui. Pourquoi ? Moi qui ai vécu aux États-Unis, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. On peut, et ce sera l'objet d'ailleurs du troisième débat, je crois, par rapport au retrait ou la possibilité qui est donnée à un ayant droit de se voir refuser un héritage. Aux États-Unis, on peut effectivement assigner en justice n'importe qui parce qu'on se sent agressé. Il faut faire attention. Il y a des particularités. Nous sommes une société qui est une société germano-pratine, qui est basée sur un concept de droit qui n'est pas le même que celui des anglo-saxons. Il y a quand même une sorte de vivre ensemble qui fait que tout ne se règle pas devant les tribunaux.
Oui, mais faire attention à ça. Que faut-il faire? Ce sera ma dernière question avant de passer au dernier sujet.
Justement, c'est parce que nous ne sommes pas dans le même système judiciaire aux États-Unis et ici, qu'ici nos lois nous protègent aussi et protègent aussi celui qui est accusé injustement. Et c'est un système qui est complètement différent. Je trouve qu'il faut arrêter aussi de.
Très intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu payes, t'as tout ce que tu veux.
On n'est pas du tout sur le même système judiciaire.
C'est précisément ce que je dis.
Vraiment.
Entre le common law.
En gros, t'es riche, tu gagnes. T'es pas
entre
riche,
le common law et la droit continentale, c'est exactement la même chose.
Oui, c'est ça.
C'est exactement ce que tu dis.
C'est un peu ce que tu dis.
C'est pas comme ça. J'ai compris, moi. Moi,
c'est
toujours faire le parallèle avec les États-Unis, c'est un peu fatigant à un moment.
Ça c'est parfaitement parcellaire. Je dis que je reprends en une phrase. Dans le système juridique anglo-saxon, qui s'appelle le droit commun, la common law, tout litige avec l'administration ou autrui se fait par le biais d'un jugement. Et donc, ceux qui ont plus de capacité à se défendre, avoir accès à un système de protection, à travers des avocats ou à travers des systèmes de notaires, même si le système de notariat n'est pas tout à fait compatible avec le droit anglo-saxon. Et donc, la différence avec la France, c'est qu'il y a une forme de traitement, d'interaction sociale qui se fait à travers ce qu'on appelle les corps constitués, et on ne passe pas obligatoirement à la phase pénale ou à la phase juridique. C'est toute la différence de culture qui peut exister entre nos deux systèmes, nos deux aires civilisationnelles, anglo-saxons, plutôt d'ailleurs anglophones, même si les anglo-saxons se sont inspirés, ont des racines germaniques, et le système de ce qu'on appelle le droit continental. Et le droit continental protège le citoyen. Il protège le citoyen à travers la norme, à travers la règle, à travers la loi, et à travers un certain nombre de structures qui ont vocation à le protéger.
Avant de passer au second et au dernier sujet, le troisième sujet, je veux parler évidemment de l'héritage de Johnny Hallyday. Dites-moi, finalement, qu'est-ce qu'il faut préconiser? Comment vous voyez à terme les choses? Mehdi, par exemple, elle vient d'esquisser un début de réflexion, c'est-à-dire prévention.
Mais éducation, commence tout petit. Ouais. Et ça, je le dis tout le temps. Enfin, même quand on parle de violence, d'inégalité, de machin... faut commencer tout petit, c'est là où on va savoir comment dire non. Moi, on m'a jamais appris à dire non.
Je suis une fille, j'avais 11 ans. À 11 ans, déjà, je me posais pas la question d'avoir des relations sexuelles, excusez-moi, mais c'était peut-être d'un autre âge. Mais on avait quand même une découverte sexuelle qui arrivait, mais on m'a pas appris à dire non. Donc, commencer par l'éducation, la sensibilisation, la prévention, l'information, enfin, tous les outils qu'on utilise très bien et qui vont de pair avec la répression. Voilà. Ça
donc,
me paraît logique.
Donc, pour toi, tu considères, c'est d'abord un, l'éducation, la première base.
C'est la base. C'est la base de la construction de tous. C'est là où on apprend. C'est à l'école où on apprend. Et ben, on apprend à être, à dire liberté, égalité, fraternité. Mon fils l'a ramené l'autre jour. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Et ben, on apprend à être égaux. On apprend aussi à protéger son corps. On apprend aussi à avoir cet échange-là sur la sexualité. Je suis désolée, mais on en parle quand, à l'école? Je me souviens, moi, d'une histoire.
Ils en parlent en sixième, à partir de la sixième.
Ils ont une obligation. Alors 23%, c'est le pourcentage d'écoles qui le fait. Donc faut pas dire qu'on le fait partout. Et quand on le fait, faut pas dire qu'on le fait bien non plus. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus, savoir ce qu'on veut dire et ce qu'on veut dire aux enfants.
La gendarmerie nationale, faut le savoir, en France, qui a lancé ce qu'on appelle le permis internet, la gendarmerie se déplace dans les classes de CM2 pour sensibiliser les jeunes pendant quelques jours, 2-3 jours, et à la fin ils obtiennent un petit diplôme, donc on le formalise et puis ça les responsabilise et puis on leur apprend justement à ne pas envoyer n'importe quoi via Facebook ou Snapchat, et je trouve que c'est un beau travail, et ça commence bien sûr. Je voulais compléter les
propos de mes collègues en disant qu'effectivement c'est juste de la raison, c'est juste une sorte de sensibilisation éducative. Sans paraître trop pédant, Spinoza avait cette formule qui résume tout. On ne naît pas citoyen, on le devient. On le devient à travers la culture, à travers ses racines, ses traditions et évidemment à travers l'école. Aussi simple que ça.
Restez avec
nous. Chaque enfant se construit et donc c'est un processus.
Si ça continue, et puis il faut absolument que ça fasse débat. 01 53 48 3000, les réseaux sociaux également. Le grand déballage, c'est aussi ça. On va parler dans une poignée de minutes, vous savez quoi, de l'héritage. L'héritage de Johnny Hallyday, ça fait rire Johnny Dallès. Mais oui, c'est aussi...
Mais c'est tragique. On en rigole, mais c'est tragique quand même. C'est tragique comique.
C'est terrible.
Moi, je me mets à la place de Laetitia, la pauvre, elle doit trinquer quand même.
Et les enfants, ils sont pas inquiets aussi ?
Si.
Bah oui, un peu.
Toi, être inquiet quand même.
Moi, je me mets à la place de chacun et chacune, et je trouve pas ça drôle, non, effectivement, mais je sais pas sur quoi ça va déboucher, surtout.
À tout de suite, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Eh bien, bonsoir à tous. Vous le savez, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi de 18h à 20h avec des influenceurs et des influenceuses. Et oui, comme Julie Dénès. Bonsoir.
Bonsoir.
Un tout nouveau parmi nous, il s'appelle Mehdi. Mehdi, bonjour.
Bonjour.
J'oublie déjà ton nom de famille, mais c'est pas grave. Monsieur Amala.
Merci.
Julie Dénès qui est auteur. Rappelle-nous ton ouvrage.
Une poule sur un mur.
Et enfin, Mehdi Amala qui est le responsable digital. Tout se passe bien?
Tout se passe bien. Merci beaucoup, Adil.
À ses côtés, Emmanuel Dupuis. Évidemment, quand je ne présente même plus, président de l'IPSE.
Quand même, il faut me présenter un peu quand même.
Ah, je te présente un peu quand même.
Bonjour, bon. Adil, et bonjour aux éditeurs.
Tout va bien?
Tout va bien.
Enfin. Allez, ce qui vous attend, vous savez, gros programme. Hein, attention, le sommaire, il s'annonce très chargé. Alors, le grand déballage ce soir, 18h-20h, vous savez, dans la première partie de cette émission, on parlera de trois sujets. France, pays de race blanche. Ça, c'est des déclarations de Morano qui persistent en invoquant De Gaulle. Ensuite, le consentement sexuel d'une fille de 11 ans en débat devant la justice. On en parle, puisque un homme de 28 ans sera jugé, vous le savez, et il est jugé depuis quelques jours pour avoir eu une relation sexuelle avec un enfant, une enfant plus précisément de 11 ans. Et le dernier sujet, eh bien, héritage de Johnny Hallyday. Moi, la question que je pose, c'est la guerre des clans a-t-elle déclaré? Mais surtout, on s'intéressera à cette ultime question. Peut-on déshériter ses enfants? Et comment gérer l'héritage de sa famille, y compris la nôtre, par exemple? Et en seconde partie de cette émission, vous savez, on s'intéressera à deux sujets. L'invité par téléphone, Laure Delaire, sur la plateforme participative et l'orientation des jeunes. On parlera du CESE, le Conseil économique, forum et social. Et puis, la dernière ligne droite de cette émission, la pièce, on parlera de mariage arrangé avec Sarah Tekaya. C'est une pièce qui aborde le thème du mariage arrangé. Voilà le programme qui vous attend. C'est parti, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage
avec Adil Farkan.
Eh ben c'est parti, en tout cas très heureux, et si vous commencez votre week-end, eh bien bon démarrage et bon début d'un bon début de week-end qui s'annonce, je l'espère, avec beaucoup de choses. Première partie de cette émission, dites-moi, les sujets. Alors, ça fait beaucoup parler quand même, hein, cette histoire de race blanche quand même. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous partagez, comme finalement Nadine Morano, qui est la conseillère politique de Wauquiez, qui est le boss maintenant, je dirais, des Républicains, qui persiste et qui signe, qui dit vouloir invoquer De Gaulle, mais surtout, j'ouvre les guillemets, France, pays de race blanche. Alors attention, la députée européenne a par ailleurs déclaré qu'il y avait un problème avec l'islam en France et un besoin de contrôle du culte musulman. D'abord, je veux qu'on réponde à cette première question. Mehdi Amala, il a déjà levé son stylo. Tu sais, c'est comme à l'école. Ça me rappelle la fac, tu sais. Et tu donnes la parole, sinon je t'en mets une.
Non, mais surtout quand
tu m'as
quand
tellement
il s'agit
menacé,
de...
Mehdi Amala, là.
Non, quand il s'agit de Nadine Morano.
Wallah, tu ne donnes pas la parole, je te jure, je t'éclate.
Merci.
Il va me faire comme Morano, t'as vu,
Nadine? C'est violent, c'est violent.
Tu vois, bah oui, non, mais il est aussi offensif qu'elle.
Non, 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 surtout pas. Non, je suis gentil. J'ai pas le livre de De Gaulle dans mon sac, comme elle a pu le démontrer chez notre cher confrère Patrick Cohen sur Europe 1. Donc moi je voulais juste dire une chose par rapport à cette interview, c'est vraiment, enfin sur ce sujet-là, on a l'impression que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. D'un côté, il faut justement payer via des fonds publics les lieux de culte, donc en l'occurrence les mosquées, et ainsi éviter à l'Arabie Saoudite ou d'autres pays de financer ces mosquées-là. Et d'un autre côté, il y a débat sur la trésorerie de ces lieux de culte, puisqu'on n'a pas forcément l'argent pour payer ces mosquées.
Et finalement, mais ça, c'est toujours été un. On ne découvre pas ça.
Finalement, ce qui se passe,
la France ne découvre pas aujourd'hui que les différentes mosquées sont financées par notamment l'étranger, ouais, et notamment le Moyen-Orient et le Maghreb.
C'est paradoxal parce que d'un côté, Nadine Morano déclare qu'il faut contrôler les provenances de ces fonds, mais d'un autre côté, on n'a pas l'argent justement pour faire nous-mêmes nos propres mosquées.
Mais c'est quoi la conséquence avant d'entamer un grand débat qui risque, je pense, un risque de faire une grosse polémique, tant mieux, parce que il faut, de toute façon, c'est toujours sain et constructif. Quand elle dit cette déclaration, France, pays de race blanche.
Oui.
Ça vous choque? Ça vous choque pas? Vous trouvez que c'est logique, c'est normal qu'on est dans un pays de race blanche? Et que voilà.
Pour elle, c'est normal.
Oui, je lis dire. Et ensuite, après-midi, Amala, Emmanuel Dupuis.
C'est ça qui est assez énorme, c'est que pour Nadine Morano, c'est normal de dire ça. Et d'aller invoquer ce qu'aurait dit De Gaulle au fin fond de son cabinet, voilà, je trouve ça complètement ridicule. C'était en 1959, il n'est plus là pour dire si c'était vrai ou
faux. C'est pas la même époque.
Surtout qu'il n'a pas dit ça.
Et en plus, il n'a pas dit ça. Ouais. Emmanuel Dupuis, je vous donne la parole après. Julie Dénès.
Effectivement, enfin, ce qui a été rapporté, c'est pas tout à fait ça. Par ailleurs, moi, j'en ai ras-le-bol, vraiment ras-le-bol, qu'on nous assigne à notre couleur de peau. Mmh. Voilà, stop. Maintenant, et dans tous les sens du terme, que ce soit les antiracistes, les machins, les trucs et les bidules. Moi, j'ai un garçon qui est métissé. Il est pratiquement roux, il a les yeux gris et il est blanc bec. Je lui dis quoi? Il est quoi? Il est de race blanche, il est racisé, etc. Moi, j'en ai ras-le-bol. Et Nadine, voilà. Mon fils, l'autre jour, est revenu, il m'a dit « Maman, c'est quoi l'infini ?» Bah, la bêtise de Nadine Morano, voilà. C'est une preuve que l'infini existe. Et sur ce sujet-là, oui.
Oui, mais Julie Dénès, enfin, je ne vais pas te la prendre. La déclaration de Nadine Morano, ils sont beaucoup à la partager. La France ne s'arrête pas simplement à l'Île-de-France.
Non mais
c'est aussi la France profonde, c'est aussi.
C'est pas parce qu'elle est partagée qu'elle est vraie non plus.
Oui, non mais je te l'accorde.
Il faut pas la.
Qu'est-ce qu'on répond à qu'est-ce qu'on répond à cela?
Mais le monde s'est créé sur la migration. On a tous migré, on vient tous d'un même endroit. On est tous métissés quelque part. La race blanche, la race, tout ça, ça n'existe pas, ça n'a aucun fondement.
Et ça sous-entend, ça veut dire qu'il y a une race blanche et il y a une autre race.
Évidemment, là, elle est en train
de nous
dire.
Pour moi, il n'y a qu'une race humaine. Hein.
Voilà, il y a une race, c'est la race humaine. Elle est en train de nous dire quoi? Que la race blanche, forcément, ce sont les personnes qui sont pas musulmanes. Musulman, par exemple. Voilà, donc que le musulman ne peut pas s'intégrer en France parce qu'il ne serait pas de race blanche. On a des raccourcis qui sont dangereux, qui sont rances.
Ça me renvoie à l'histoire des États-Unis, tiens, l'apartheid.
Mais oui, non, mais complètement. Arrêtons de nous diviser comme ça, enfin, sur des questions de mélanine, parce que, excusez-moi, mais c'est juste de la mélanine, en fait, c'est un taux de mélanine.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux musulmans. Elle insiste, elle a montré en live la couverture du magazine Le Point où on découvre trois femmes afghanes en jupe et en petit chemisier. Donc pour insister sur le paradoxe avec les femmes afghanes d'aujourd'hui, ce qui remet en question, c'est pas forcément les musulmans, c'est la pratique de l'islam en France. C'est vraiment ça qui remet en question, c'est le voile dans les cités, la position de la femme soumise, etc. Et cette parité homme-femme. D'ailleurs, enfin moi j'ai éclaté de rire quand elle a dit pourquoi les hommes ne porteraient pas le voile dans les cités. Non mais franchement, en fait c'est pour moi même pas un débat. Où va-t-on? Sérieux.
Pardon, j'en rigole, je préfère. Non, c'est comme ça. Non mais excusez-moi, j'ai craqué.
Yeah.
Parfois, c'est un peu. Non, non. Elle, en fait, ce qu'elle condamne là, oui, effectivement, elle a un problème avec le voile, quoi qu'il arrive. C'est certain.
Mais j'adore Julie parce que je lui dis lâche-toi, prends le micro. Alors elle, ça y est, elle a pris le micro, elle peut plus le lâcher. Mais non, parce qu'il y a Emmanuel Dupuis. Vous l'avez oublié quand même.
Parlons.
Emmanuel Dupuis, mon cher Emmanuel.
Moi, je m'oublie pas. Alors,
la race blanche, toi.
Non, mais il y a plein de choses à dire parce que le débat en question, l'intervention de Nadine Morano en question, ne portait pas que sur ça. Ça portait sur la manière dont son parti appréhendait un certain nombre de questions qui vont aller, qui seront de plus en plus prégnantes, car elles vont influer sur les futures élections, et notamment l'élection européenne.
Européenne, en 2019.
Tu as parfaitement dit qu'elle est députée européenne, c'est pour ça qu'elle a essayé de citer De Gaulle en tronçonnant ou en saucissonnant la déclaration de De Gaulle. Je l'ai sous les yeux, la déclaration de De Gaulle. Elle est intéressante.
Allons-y.
C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs et des Français bruns. Ça, elle l'a pas évoqué. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Comme l'a dit Julie, nous sommes en 1959, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen de race blanche, ce qui n'est pas la même chose que de dire que la France est un pays de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Donc, pris dans son ensemble, ça correspond à une réalité.
Bah alors Nadine Morano, Nadine, si tu nous écoutes, je suis pas content là, Nadine.
Je suis pas certain qu'elle vous écoute. Il faut aussi avoir à l'esprit.
Mais si elle nous écoute, Nadine, tu as déconné.
Il faut aussi avoir à l'esprit que sa déclaration arrive à un moment où il y a.
Il faut récupérer son propos de De Gaulle. Respectons De Gaulle.
Au sein de son parti, elle aurait pu effectivement le dire puisqu'elle avait qu'elle a sorti le livre, livre d'entretien avec Alain Perfit. Bon, de ce que Alain Perfit a recueilli de ses entretiens avec le général De Gaulle. Bon. Il y a le contexte. Le contexte, c'est un parti politique auquel elle appartient. Elle est une des nombreuses voix. C'est pas la seule. Et c'est pas la parole de Nadine Morano qui engage la totalité du parti. Même si, effectivement, sans doute qu'il y a au sein des Républicains des gens qui pensent comme elle. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'étais ici à côté de Jonas Haddad. Je suis pas certain que Jonas Haddad, membre des Républicains, partage le même point de vue.
On lui posera la question.
Par contre, il y a une sorte de tropisme.
Faudrait la question aussi à Stéphane Tsiki, tiens.
Ah.
Encore mieux, Stéphane.
Encore mieux,
Stéphane. Je pense d'ailleurs que Stéphane mériterait d'être plus écouté et puisse dire la position de Nadine Morano, nonobstant son appartenance au parti politique, n'engage pas le parti politique en question. Quand j'interviens, j'engage pas non plus mon parti politique. Bon.
L'UDI.
C'est le principe absolu les centristes. Le principe absolu des responsables politiques. Maintenant, que dire de Nadine Morano? Elle est dans la continuité de sa perception erronée de la société française dans sa diversité et dans sa capacité d'agréger des cultures, des opinions, des personnes qui viennent d'origines géographiques, culturelles et religieuses différentes.
Non mais clairement, là, elle a un problème avec la religion, l'islam de France.
Elle fait justement, et c'est là le plus intéressant.
Oui.
C'est que psychologiquement, elle fait la jonction qui, hélas, prouve qu'elle a un problème avec la différence, ou qu'elle a un problème avec le différentialisme, puisqu'elle fait la jonction entre la race et la religion. Il me semble que l'on peut être de religion différente et pas forcément embrasser une culture ou une couleur qui correspond plus aux réalités qui étaient celles de la première moitié du premier siècle,
du siècle,
ou du siècle précédent.
Oui.
Et il est évident que le phénomène migratoire a connu une progression durant les 30 dernières années. Et cela a façonné une autre façon de concevoir les nations plus interculturelles, plus mélangées et plus agrégatives, si j'ose dire. Mmh. Et ça, Nadine Morano semble s'inscrire dans une nostalgie politique. Nostalgie politique, d'ailleurs, qui correspond exactement à son positionnement politique. Mmh. Alors, d'ailleurs, celui aussi du président Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas hésité à parler des racines chrétiennes, là aussi, dans une logique où il était en condition de le faire à l'occasion de son discours d'introduction comme chanoine de la basilique de Saint-Jean du Latran. Mais bien évidemment, cette évocation de la racine chrétienne a été tronquée et utilisée par d'autres pour dire, voyez, la France, ce ne sont que les racines.
Mais dites-moi, ça me rappelle un peu le grand débat qui a eu lieu ici, qui a fait un gros scandale, énorme scandale en France et qui a créé une grosse polémique. Je fais référence à l'identité nationale. Vous en souvenez ou pas?
Oui.
Sous le règne de Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas en train de préparer justement le débat qui va s'annoncer dans quelques mois là, parce que vous l'avez rappelé, tu l'as rappelé, oui. Emmanuel Dupuis. Il y a les élections européennes dans un an. Ils sont en train de préparer les élections européennes. Ah bah, 2019 est un enjeu européen.
Alors, ce débat n'est pas que français. Hein. Il transcende les 27, peut-être même encore les 28 pays de l'Union européenne, où dans toutes les familles politiques, il y a un certain nombre de responsables qui veulent réaffirmer une certaine forme de conservatisme, une certaine forme de protectionnisme, à la fois institutionnel, renforcement de Schengen, institutionnalisation d'outils, Frontex, pour ne parler que de celui qui, entre guillemets, enchasse et protège la rive sud et la rive occidentale de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. Mais il y a des propos encore plus, non pas scandaleux, parce que je n'irai pas jusque-là, encore plus litigieux dans d'autres pays. Le débat actuellement en République tchèque, avec le nouveau président Zeman, ou en Hongrie, avec le Premier ministre Orban, sont à peu près de même nature. Nous fermons les frontières car nous ne voulons pas être envahis. Je résume à peu près le propos. Donc ce discours en France arrive. Il n'était jusqu'à présent pas très présent dans nos débats. Il va arriver et il sera...
Il revient, il s'en va. Enfin, me parler d'identité, moi je trouve... Enfin voilà, ce débat-là, je suis complètement exclu. Parlons de citoyenneté, par exemple. Voilà, allons chercher ce qui...
Mais ils veulent exister, tout simplement. Les Républicains cherchent, si vous voulez.
Mais les citoyennetés, comme tous les autres, parlent aussi de citoyenneté. Ce serait une hérésie de ne pas le dire. Elle, non. Encore une fois,
on parle bien d'elle, on ne parle pas des autres. Et ce que je dis, c'est que moi, l'identité, voilà. Par contre, la citoyenneté, aller chercher ce qui nous rassemble, le pourquoi, par exemple, on est là aujourd'hui, on arrive à discuter ensemble, ce qu'on fait ensemble sur le terrain. Moi, je le vois tous les jours avec tous les amis qui sont hyper engagés partout sur les territoires. Pourquoi est-ce qu'on les montre pas? Pourquoi est-ce qu'on montre pas que nous, c'est pas une question?
Est-ce que vous avez des collègues, des Français de confession musulmane?
Bien sûr.
Dans votre entourage? J'imagine que oui. Oui, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils entendent ce type de propos, ce type de déclaration, notamment de Morano qui dit, voilà, pays de race blanche, l'islam est un problème, l'islam de France n'existe pas.
Mais qu'elle n'y connaît rien, c'est tout. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils disent vos collègues de Français de confession musulmane? Ils disent quoi?
C'est de l'ignorance.
L'ignorance. Enfin, ils sont pas agacés, non, je sais pas.
Mais tout le monde est agacé, juste eux. Il y a un ras-le-bol, tout le monde est agacé, on en a marre de l'entendre, la liberté d'expression, moi je veux bien. Mais là, faut changer de disque, quoi. Ouais. Vraiment.
C'est toujours la même musique.
Hein. Voilà,
une dernière chose, rappelons qu'en décembre 2017, donc il y a 2 mois, Nadine Morano a été déclarée la personnalité la plus détestée des Français. Donc il y a vraiment un ras-le-bol, un agacement, et on connaît la musique. Hein. Elle est là pour faire le buzz, entre guillemets. Derrière chaque interview, ça génère des tweets pas possibles, et puis si on a le temps, on y reviendra après.
Non mais... Bah écoutez, on continue d'en parler, Emmanuel Dupuis. On va marquer juste la première pause musicale. Restez avec nous, ça s'appelle Le Grand Déballage. Restez avec nous, ne bougez surtout pas, à tout de suite.
Le Grand Déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h-20h. Le Grand Déballage avec Adil Farkan.
19h37, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, Le Grand Déballage, y compris sur les réseaux sociaux, vous pouvez commenter en toute liberté d'expression, bienvenue à vous tous, Le Grand Déballage avec Amit Chriette, Le Grand Déballage également avec Rosa Méziane, et enfin avec Emmanuel Dupuis. Le débat évidemment est tendu, mais en même temps passionnant, c'est normal, en toute liberté d'expression, dans une poignée de minutes, c'est-à-dire dans 2 minutes, on aura en exclusivité le jeune Boubacar de 19 ans qui a été blessé, vous savez, avec ce policier qui tire sur un automobiliste alors qu'il était en fuite. Ça soulève aussi de vraies questions. Il a accepté notre invitation et je le remercie infiniment. Et c'est en exclusivité ici chez nous. Mais avant, juste, je vais accueillir Wardia qui nous appelle de Paris. Bonsoir Wardia.
Bonsoir mon frère.
Bonsoir, bienvenue à toi. Bienvenue.
Merci beaucoup.
On t'écoute.
Alors, moi, je parle un peu mal français, mais quand même, je me débrouille.
Mais on t'écoute, là, justement, c'est audible et c'est une très bonne chose.
Moi, j'ai mon neveu, je l'ai connu à l'âge de 9 mois au bled. Je l'ai cuit ici, moi, 5 ans chez moi. Alors, quand il est arrivé 6 ans, je l'ai ramené en France parce qu'il est né ici en Seine-et-Marne. Alors, donc, ses parents, ils sont là. Et j'ai dit, il va faire son école, je ne vais pas briser sa vie pour connaître ses parents et pour faire l'école. Et quand j'ai rentré, j'ai regretté quand je suis venue.
Pourquoi?
Alors, voilà.
Quel lien avec notre sujet? On parle de l'affaire Théo et des policiers.
Pour la police.
Oui.
Attends, je marche tout doucement, j'arrive à la police.
Mais il faut aller vite parce que là, vous savez, il est 19h40. Et il faut aller très vite, cher Wardia.
Alors, d'accord. Alors, la police, elle cherche après mon neveu, là. Parce qu'il envoie des convocations, il ne se présente pas au tribunal. Alors, ils sont venus à 6h du matin, il fait encore noir. Lui, il est parti chez ses parents pour passer la nouvelle année. Alors, quand ils ont cassé la porte, moi, je suis malade, j'ai en train de faire le dialyse. Et j'ai mon fils, l'amour de son père, il est venu me protéger ici. C'est lui qui s'occupe de moi, c'est un garde-malade. Ils ont cassé la porte et ils ont tapé mon fils avec les coups de pied. Ils ont mis les menottes par terre. Et moi, quand j'ai vu comme ça, j'ai crié, attention, il a fait rien, mon fils, il reste tranquille. Attention. Et m'a dit, ils m'ont tronglé, et la dame qui venait avec eux, elle m'a dit, sale connasse.
Qui vous a dit, sale connasse? Un policier?
La policière.
Oui, la policière. Et qui vous a étranglé?
C'est la police, et la dame, là.
Allez porter plainte, madame Wardia, faut aller porter plainte.
J'aimerais bien voir la réponse d'Emmanuel. Là.
Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez laissé passer ou...
C'est inadmissible,
point pas général.
Vous avez... Attendez, s'il vous plaît, dis quelque chose de très important. Tu dis que tu as peur, c'est ça?
Est-ce que c'est pas trop tard? Oui.
Ben, faut aller porter plainte, Wardia. Il faut aller porter plainte.
Est-ce que c'est pas trop tard parce que... Ça fait presque 2 mois, là.
Non, c'est
possible. Mais non, c'est pas trop tard.
C'est possible.
Bien sûr, d'accord. Rien n'est trop tard.
D'accord, ok, merci.
Ben, je vous en prie, Wardia. Voilà.
Ils m'ont tapé mon fils. Ils m'ont traité comme une connasse. Chez moi, deux fois, ils viennent à 6h du matin. À chaque jeudi, ils viennent casser la...
Eh bien, Wardia, saisissez vos droits, allez porter plainte et la justice fera son travail. Voilà.
D'accord.
Merci, Wardia, pour ton témoignage. Merci infiniment.
Merci.
19h40, on va accueillir, s'il vous plaît, Boubacar. Bonsoir, Boubacar. Bonsoir, Boubacar.
Oui.
Bonsoir, Boubacar. Tu es mon invité dans le grand déballage ce soir et tu as accepté. Vraiment, je t'en remercie infiniment. Tu as accepté et c'est en exclusivité pour Beurre FM et en exclusivité pour le grand déballage. Merci d'être avec nous. Alors, je vais rappeler juste les faits. Un motard de la police, il a ouvert le feu ce fameux 26 janvier, d'accord, il y a quelques jours. 26 janvier, ça se passait à Villeneuve-la-Garenne. Un motard de la police, donc, il ouvre le feu sur une personne ou deux qui tentait de prendre la fuite en voiture à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Un peu plus tôt, cette même voiture, au volant, un premier conducteur, il est âgé de 25 ans, tu m'arrêtes si je me trompe, qui lui a tenté d'échapper à un contrôle de police sur l'autoroute A86, avant d'être finalement immobilisé à Villeneuve-la-Garenne. Et puis, une deuxième personne, c'est toi donc, 19 ans, d'accord, et tu as été blessé, même grièvement blessé. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les faits? Est-ce que jusqu'ici, évidemment, ce que je viens de décrire, c'est plutôt faux ou vrai? Raconte-nous tout. Que s'est-il passé, Boubacar?
En fait, on était sur l'autoroute. Oui. Il y avait un premier conducteur, en fait.
C'est ton pote.
Ouais, il n'avait pas le permis.
Il n'avait pas le permis.
Voilà. Et y a les motards qui ont commencé à le poursuivre. J'étais côté passager, moi. Et ça a dû, c'était de Bobigny jusqu'à la sortie de Villeneuve-la-Garenne. Et les motards, tout ce temps-là, ils étaient derrière nous. Et arrivé à Villeneuve-la-Garenne, c'était bouché un peu la sortie d'autoroute. Donc mon ami, il est descendu.
Oui.
Et il a essayé de courir. Il y a un des motards, il est arrivé, il lui a foncé dessus avec sa moto. Mon copain, il est tombé par terre.
Quand tu dis, il est descendu du véhicule, il a quitté le véhicule par peur, par quoi?
Il a quitté le véhicule parce qu'en fait, c'est par peur de retourner en prison. Parce que il avait déjà été arrêté auparavant pour des fautes de permis. Donc après, il a eu peur. Il s'est dit qu'il n'allait pas s'arrêter. Après, il est descendu pour courir et la police, ils lui ont foncé dedans avec leur moto. Et mon ami, il est tombé. Il s'est relevé pour courir. Il a couru. Et les deux policiers, ils l'ont suivi, en fait. Et moi, ils n'ont pas fait attention à moi, vu que j'étais côté passager. Et moi, vu que j'ai le permis et que, en gros, la voiture, elle était en règle, il n'y avait rien d'illicite dedans, je suis descendu de la voiture et je suis passé côté conducteur.
Oui.
Et en passant côté conducteur, ben, je passe la vitesse et après je relève la tête, j'entends des cris. Et c'était le policier en fait qui criait, il me disait je vais te fumer.
En ces termes, il te disait je vais te fumer.
Oui, il me disait je vais te fumer en braquant en fait.
En braquant quoi? L'arme dans ta direction?
Sur moi.
Oui.
Ouais, en ma direction, il était en face de moi.
Oui.
Donc moi j'ai eu peur un peu, donc je me suis dit je vais le contourner.
T'as eu peur quoi? De prendre une balle perdue comme ça?
Oui, voilà, bah oui, parce qu'il criait et il me disait je vais te fumer, j'avais peur.
Et à ce moment, qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que on l'a tous vu cette vidéo. Elle a évidemment fait le buzz sur tous les réseaux sociaux. On l'a tous visionné cette vidéo. Et à un moment, que se passe-t-il à ce moment-là? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit?
Bah, je me dis qu'il va tirer. Il était en face de moi. Enfin, il faisait peur. Comment il parlait?
Le motard, hein?
Oui. Allô?
Et là, qu'est-ce que tu décides de faire?
Bah, je décide en fait de mettre mon clignotant. Et de contourner le policier pour qu'il voie que je veux pas aller vers lui, en gros.
Parce que c'est vrai que certains t'accusent à ce moment-là. Attention, c'est très important ce qui se dit là. À ce moment précis, d'accord, toi tu parles de contourner, évidemment, le motard de police. Oui. Et certains t'accusent d'avoir eu l'intention, d'accord, de foncer sur lui. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu réponds, Boubacar?
Non, à aucun moment je voulais foncer dessus.
Et à aucun moment, tu as eu l'intention de lui...
Bah non, j'ai mis mon clignotant pour qu'il voie. Et en plus, directement, quand je mets mon clignotant, je braque sur la gauche le volant. Pour bien le contourner et qu'il voie que je vais pas lui foncer dessus. Et au moment où j'ai braqué le volant, le policier m'a tiré une balle dans le bras. Et
ah
moi,
oui.
J'ai eu peur déjà à ce moment-là. J'ai freiné et je me suis dit que je pouvais pas m'arrêter, sinon il allait continuer à tirer. Et au final, bah j'ai eu raison parce que... En avançant, bah, le policier, il a tiré 10 balles sur la voiture.
Dans quel état physique tu te retrouves aujourd'hui? Tu nous disais donc tu es blessé. Blessé où précisément?
Je suis blessé au bras.
Bras gauche, droit?
Bras droit, gravement,
oui.
Parce que j'ai 40 points de suture, j'ai des plaques dans le bras.
Ah ouais, 40 points de suture. Ah, c'est quelque chose.
Ouais. Et j'ai des plaques dans le bras. À la hanche. J'ai été opéré aussi. J'ai du mal à marcher. Quand je dors, bah, je peux pas trop bouger parce que ça me fait. Déjà, mon bras, il me lance et ma hanche, des fois, je me tourne un peu dessus et ça me fait. Ça me réveille. J'ai du mal à dormir déjà.
Combien de jours d'incapacité totale de travail d'ITT?
45 jours.
45 jours.
Pour l'instant. 45 jours pour l'instant, mais en voyant avec l'évolution si mon os il se remet bien ou pas. Eh ben, ils me diront si ça doit être prolongé ou pas. Et si les plaques, ils devront être gardées plus longtemps ou pas.
Je rappelle une chose, hein. L'IGPN a saisi donc l'affaire, hein, pour éclaircir les circonstances des coups de feu.
Oui.
Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour refus d'obtempérer, c'est-à-dire toi et ton ami, hein, on est d'accord? C'est ce qui se dit, hein. Et tentative d'homicide volontaire. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? C'est ce qu'a indiqué le parquet, hein.
Oui.
Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose, Boubacar?
Ouais, ben que moi, à aucun moment, je voulais aller sur le policier. J'avais rien à me reprocher, j'ai le permis. La voiture, elle était assurée, elle avait tout, la voiture. Et comme ils ont dit après, la voiture, ils ont rien retrouvé à l'intérieur. Donc, j'avais pas de raison de m'enfuir, en vrai. Je me suis enfui par peur, juste par peur. Parce que le policier, il insistait beaucoup sur « je vais te fumer », j'ai eu peur.
Bon, un petit tour de table. Rosa Méziane.
Merci Boubacar d'avoir témoigné. Comment tu te sens aujourd'hui psychologiquement avec toute cette affaire?
Et ben là, je suis choqué en fait parce que jamais j'aurais pensé que le policier l'aurait tiré.
C'est la première fois que tu as affaire à la police?
J'ai déjà eu affaire à la police, mais pour quand j'étais mineur. Okay. Pour des délits mineurs, ça fait un moment déjà.
D'accord, ok.
Emmanuel Dupuis? Souhaiterais aussi t'interpeller.
Voilà, c'est une affaire judiciaire en cours, donc moi, de ce point de vue-là, je ne veux pas non plus rentrer dans la polémique. On a entendu le témoignage de monsieur. Peut-être qu'il faudra entendre le témoignage des policiers, mais je ne suis pas magistrat ni avocat.
Absolument, il faudra aussi écouter le témoignage du policier qui a tiré.
J'ai pas.
Je tiens à le dire, j'ai lancé l'appel. Hein.
Ouais, non, mais tu as eu raison d'être vraiment le plus précis possible. Par contre, en reprenant un petit peu en amont, on en revient à la question. On ne peut pas faire comme s'il y avait deux mondes qui se faisaient face. À un moment ou à un autre, il faut qu'on apprenne à se respecter, à se connaître. Évidemment, dès qu'il y a une manifestation extravagante ou qui ne correspond pas à la stricte application de la loi, eh ben, il faut la sanctionner d'où qu'elle vienne, premièrement. Deuxièmement, il faut avoir conscience que on vit dans une société dans laquelle on a besoin de sécurité. Faut pas faire comme si on n'avait pas besoin de sécurité, parce que ça, c'est une vue de l'esprit que personne, mais alors personne ne peut justifier. On vit dans une société dans laquelle la criminalité, petite ou grande, n'a cessé de monter. On vit dans une société dans laquelle les policiers sont aussi utiles que les médiateurs sociaux, et on vit dans une société dans laquelle on a tendance, malheureusement, à mettre des masques ou à tourner le regard ou à cristalliser sur une affaire l'ensemble de ce que cela peut représenter. Je rappelle ce chiffre, il y a en France 150 000 policiers, il n'y a pas 150 000 voyous. Voilà, exactement. C'est tout.
Allez, avant de, évidemment, Boubacar, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant de te libérer? Je le rappelle et je te remercie infiniment. Ahmed Chriat, non? Non. Boubacar, le mot de la fin te revient.
Mais en fait, c'était pour savoir s'il pouvait avoir un appel à témoins pour la personne qui a fait la vidéo.
La deuxième personne qui a filmé.
Ah oui, la deuxième personne, c'est ça?
Non, pas la deuxième personne, c'est une personne qu'on connaît pas qui était derrière, en fait.
Oui.
Et qui a filmé.
Et qui a filmé.
Qui a filmé, en fait.
Donc là, tu lances un appel à toute la France.
Voilà.
Alors, écoutez, tous celles et ceux qui nous écoutent, celle ou celui qui a filmé. Donc ce moment, hein, qui a saisi en tout cas cette vidéo, hein, cet instant entre le motard de la police, y compris le jeune homme ou les jeunes hommes, hein, de celui de 19 ans Boubacar et puis votre ami de 25 ans. Donc on lance cet appel, hein, qui se manifeste en tout cas ici même à la radio au 0153 48 3000, qui se manifeste, voilà, qui nous appelle au 0153 48 3000, ou qui entre en contact directement avec Boubacar, pourquoi pas. Mais je pense que le plus simple, c'est de joindre la radio. C'était le mot de la fin, Boubacar?
Oui.
Je tiens à te remercier infiniment d'avoir accepté. C'était pas simple, disons-le. C'était pas simple de témoigner comme ça en direct.
C'est courageux.
Voilà, c'est courageux, absolument. C'est courageux. Ouais. Merci en tout cas, et c'était en exclusivité. Merci Boubacar.
Merci à vous.
Merci, on va suivre ton affaire. Hein. On la suivra, y compris la semaine prochaine, auprès du parquet, et on va suivre cette affaire.
Ok, d'accord.
Merci, il est 19h51. Un petit tour de table sur cette affaire. Que peut-on tirer finalement? Vous parliez tout à l'heure des rapports entre la police, les rapports entre les jeunes, les quartiers populaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on a une solution, Emmanuel Dupuis? On a tout testé.
On a tout essayé. On n'a pas tout testé, moi je l'ai dit. Non, on n'a pas tout testé.
Non, déjà,
premièrement.
Pardonnez-moi, mais ça fait 40 ans qu'on teste quand même.
Eh bien alors.
Alors quoi? En attendant, là, je vais donner raison à Rose. En attendant, pendant ces 40 ans, eh bien, il y a,
enfin, on n'a pas tous
des bavures. Il y a aussi des morts. Enfin, bref.
Évidemment. Et c'est à déplorer. Et évidemment, il faut se mettre du côté des victimes toujours. Mais on n'a pas tout testé. Premièrement, il y a un certain nombre d'expérimentations qui viennent de l'étranger. Hamid a parlé des caméras, le récépissé, une meilleure
pénalisation du cannabis qui peut être une solution par rapport aux effectifs.
C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Mais il y a plein de propositions que l'on peut puiser par le passé parce que la police de proximité a existé, ou que l'on peut regarder par rapport à ce qui se fait chez nos voisins. Mmh. Premièrement, moi je n'en propose qu'une parce que je pense qu'elle est importante au moment où on est en sous-effectif. Je rappelle ces chiffres, il y a 150 000 policiers, si on rajoute les 90 000 gendarmes, on est à peu près à des forces de sécurité avoisinant les 250 000 personnes, et il y a malheureusement une culture de la violence, d'où qu'elle vienne, de plus en plus forte. Le phénomène zadiste, la grande criminalité, le trafic de drogue, le terrorisme, peu importe le
et qui
le
se nourrit, ce trafic de drogue se nourrit avec le terrorisme.
Bien sûr, mais c'est pas le sens de mon propos.
D'où la dépénalisation du cannabis.
C'est pas ce que tu devrais. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire.
Si tu es pour la lutte contre le terrorisme.
Plus on aura de garants de la sécurité au quotidien, et c'est là où je veux en venir, plus on aura une culture de la appropriation mutuelle.
Non, mais je voulais remercier
ça,
aussi. Je voulais remercier.
Oui. Je termine d'une phrase. Vas-y, tenir compte du fait qu'il y a en France près de 400 000 personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle la sécurité privée. Et là aussi, peut-être que c'est une solution.
Allez.
En leur donnant une
s'il vous plaît
conscience citoyenne, ou une connaissance plus plus formelle de la loi et que s'il y a encore une fois une expérimentation qui est ouverte.
En quelques secondes, tour de table, et je voulais te remercier, Rosa Mézières, puisque c'est aussi, y compris grâce à toi et ton soutien.
Merci.
Rose, rapidement.
Non, effectivement, je pense qu'il ne faut pas opposer police et quartier populaire. Les premières Surtout victimes pas. De la délinquance et de l'insécurité, c'est les habitants des quartiers populaires. Et ils font appel à la police quand eux-mêmes sont victimes de méfaits. Donc ils ont conscience que c'est une nécessité et tous les habitants des quartiers vous diront que la police est nécessaire. En revanche, il faut effectivement ne pas essayer de couvrir, et c'est un peu le sentiment qu'on a systématiquement, de couvrir en fait les violences policières. Et je pense qu'il faut effectivement donner plus de moyens à la police, mais aussi plus de contrôle et d'évaluation des policiers qui parfois peuvent avoir à la marge des sentiments, un sentiment d'impunité et contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus de violences.
Et enfin, Mitch Riett, avant de rendre l'antenne.
Moi, je lance un grand appel au gouvernement. Créons une grande conférence nationale avec à la fois les quartiers populaires et les policiers et résolvons les solutions. Voilà, je lance un appel au président de la République et au gouvernement.
Normalement, ils doivent nous écouter. En tout cas, c'est pas le président de la République, mais les équipes, quelques-uns en tous les cas.
Voilà.
Ils doivent tendre l'oreille. Merci à vous. Merci à Emmanuel Dupuis.
Merci à
président de l'IPSE. À très vite ici dans le grand déballage. Merci à Mitch Riett, éditorialiste.
Merci aux éditeurs.
Ici même, il y a Rose Amézières, entrepreneur. Oui, je vais y arriver. Qui règle les questions du chômage et de l'emploi. Merci à toi.
Merci.
Merci aussi à Jonas Haddad qui était là avec nous tout à l'heure entre 18 et 19h. Et surtout, un grand merci. Vous savez, vous avez été extrêmement nombreux. Et d'ailleurs, comme tous les... Oui, si, je l'ai remercié. Ah bon, je l'ai remercié. Ah si, quand même, je n'oublie personne. Grand merci. Vous savez, vous avez été, comme chaque vendredi d'ailleurs, entre 18 et 20h, vous qui nous écoutez partout en France, vous les auditeurs, c'est aussi vous. C'est votre émission, ça s'appelle Le Grand Débannage. Merci à la réalisation, à Zora. On se retrouve demain exceptionnellement, on délocalise l'émission. On fait une spéciale de 14h à 16h avec ma collègue Samia. Demain, vous savez, on est en direct à l'Hôtel de Ville pour le Maghreb Orient des livres. 14h, 16h, à ne pas manquer. Absolument. La culture aussi.
Exactement.
C'est l'ouverture d'esprit. Très bonne soirée et très bon week-end. Portez-vous bien.
Retrouvez le grand déballage en direct tous les vendredis de 18h à 20h et en podcast sur beurrefm.net.